France Maghreb.
À la une du Grand Forum pour ce jeudi 16 janvier, Adama Cissé, boueur pour la société De Richepour, a été licencié suite à une photo volée postée sur Twitter où on le voit assoupi durant sa journée de travail. L'homme doit-il être réintégré? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter Le Grand Forum FM2. Vous nous appellerez dans un instant au 01 40 33 9000 pour en parler avec nous. Céline Bory, journaliste, dans un instant. L'homme à la tête de l'événement mondial Caftan du Maroc, le créateur de mode Amin Rani, sera parmi nous dans les rendez-vous d'Anna à 17h pour partager sa passion avec nous. LGF spécial municipal, invité de l'entretien d'admission aujourd'hui, Omar Slaouti, candidat à Argenteuil tout à l'heure à 17h30. Et le zapping, le Grand Forum bien chargé jusque 18h, soyez-en les bienvenus. Un petit coup de fil à un réalisateur de passage à Paris, réalisateur tunisien qui est avec nous par téléphone, Mahmoud Jenni, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Je suis ravi de vous accueillir parce que vous avez sorti un dernier film sur le racisme en Tunisie. On va y revenir dans un instant, mais avant toute chose, vous êtes quand même illustré quand même dans ce qu'on peut appeler la résistance. Vous êtes un critique et réalisateur. D'où vient cet engagement que vous avez envie de mettre au service de cet art?
Cet engagement remonte un peu à ma prime jeunesse, quand j'étais l'assistant de René Vautier sur Avoir 20 ans dans les Aurès et d'autres films. Et comme ça, j'ai évolué un tout petit peu les années 70 dans la mouvance de cinéma militant français, quoi.
Vous êtes de passage à Paris, disais-je. Le projection de votre dernier film a été reportée à cause de, évidemment, des grèves qui ont lieu en ce moment en France. Mais votre film a déjà été projeté en Tunisie, à Carthage notamment.
Oui, il a été sélectionné aux journées cinématographiques de Carthage qui ont lieu fin octobre, début novembre 2019.
Alors, votre dernier film traite du racisme en Tunisie envers la population noire. Pourquoi avoir fait ce film? Vraiment, le racisme anti-noir en Tunisie est-il vraiment présent et préoccupant?
Juste, j'apporte une petite précision. Il s'agit d'un racisme tuniso-tunisien.
Oui.
Envers les noirs tunisiens.
Oui.
Qui sont de concitoyens avec qui on partage la patrie, la langue, la civilisation, l'histoire, la géographie.
D'accord. Oui.
Donc, et c'est ça. Et je suis parti. D'accord. Lui, le film, il se situe dans une thématique un peu large, qui s'appelle Douleur et résistance, initiée par Coloquinte sur la torture en Tunisie, indépendante de 56 à 2010, départ de Ben Ali, quoi.
Oui.
Warda, la passion de la vie, et ce troisième, non, oui. En fait, je suis parti de la problématique suivante. La Tunisie, et ça c'est l'histoire qui parle, c'est moi. C'était le premier pays qui a aboli l'esclavage. Par un décret beylical, c'est-à-dire le bey, c'est l'équivalent du roi chez vous.
Oui.
Le 23 janvier 1846. Même dans l'éthique et dans la morale musulmane, il y a le prophète Mahomet, il a aboli l'esclavagisme et il a fait de tous ses adeptes, tous les musulmans, des gens égaux en droit et en devoir.
Oui.
Alors, à partir de cette contradiction, comment ça se fait que le Tunisien et que mon pays était au moins parmi les rares pays qui ont des lois qui incriminent le racisme, quel que soit de couleur ou de religion ou autre. Malgré cette panoplie de lois, soit de morale ou d'éthique ou de législation, on continue à l'être, à avoir des pratiques qui ne sont pas dignes parce qu'on est humain, parce qu'on est tunisien, après tout, entre nous. C'est pour et ça existe. Et d'où, justement, vous avez remarqué ce jeu de mots, le nom oui.
Oui, c'est le titre du film.
Il y a une opposition. Si vous posez la question à quelqu'un, êtes-vous raciste? Il vous dit non. Mais petit à petit, il va découvrir lui-même que oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Mm.
Ceci dit que le racisme Malheureusement, c'est un fléau universel. Et moi, ce que m'intéresse, c'est mon pays, c'est mon peuple, c'est mon concitoyen.
Mahmoud Jenni, comment a été accueilli justement votre film lorsqu'il a été projeté à Carthage? Est-ce qu'il y a une sorte de gêne justement des Tunisiens vis-à-vis de cette problématique que vous soulevez dans votre film?
Moi, je voudrais faire parler tout d'abord le guichet. Les séances réservées ont été à guichet fermé.
Oui.
Deux, surtout vis-à-vis des jeunes. Il n'y a pas de gêne, mais il y a une sorte de stupéfaction et de découverte de soi-même.
D'accord.
Ah bon, nous avons ça. Ah bon, parce que c'est un racisme intériorisé et souvent latent. Et ça, c'est ça qui est grave. Il est dans notre jargon, d'ailleurs, dans toutes les langues. Regardez, si on parle de jeudi noir, on parle de journée noire, on parle de ceci, et on a peur de tout ce qui est noir, dans toutes les langues. La langue arabe, le dialecte arabe, regorge de mots rabaissants.
Oui.
Et c'est un peu là aussi, parce que parmi mes protagonistes, il y a une panoplie. J'ai fait appel à un sociologue pour essayer de décortiquer ce phénomène social. Et de responsabiliser pas uniquement les gens, mais tout le monde. L'État, de par ses lois, est responsable. L'éducation, de par ses programmes, il faut revoir les programmes scolaires. Il faut que l'image ou la présence du noir soit omniprésente dans les manuels de lecture et autres, et dans les programmes. Et aussi les artistes.
Mahmoud Jenni, finalement, est-ce que vous considérez que le politique, parce qu'il est important aussi, en fait suffisamment pour lutter contre ce fléau que vous dénoncez dans votre film?
Le politique, je parle de cas tunisiens, la Tunisie indépendante. C'est vrai que le racisme avant tout, c'est un racisme de classe, c'est un racisme d'argent avant tout. Mais nos concitoyens, nos amis, nos frères tunisiens qui ont accédé comme moi à l'école, parce que l'école c'était notre ascenseur social,
oui.
Ils ont été privés. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu un ministre noir, un préfet noir. Tu vois? Vous voyez?
Oui, la discrimination jusque dans la politique, quoi.
Il y avait des sommités de compétences. Mais on ne leur a pas accordé des fonctions au sein du gouvernement. Ils n'étaient pas de grands commis d'État.
Alors, Mahmoud Jenni, le projet de son, disais-je tout à l'heure, a été reporté à cause de la grève. Est-ce qu'on a peut-être un petit aperçu sur une prochaine projection en France pour les Tunisiennes et Tunisiens, et pour, en l'occurrence, d'un point de vue plus général, tous les amateurs de cinéma?
Pour tout le monde, les Tunisiennes, les Tunisiens, absolument. Les Africains, parce que nous sommes Africains.
Absolument.
Pour les Français, parce qu'après tout, le racisme, comme j'ai dit, c'est
existe
un
aussi ici.
Universel. Il ne s'agit pas de la Tunisie uniquement, et c'est un phénomène qui se développe malheureusement, parce que la traite des Noirs, c'est vrai, ce fut un temps, mais maintenant la traite de l'être humain, elle a pris de la considération.
Ouais. Donc pour l'instant, pas de date précise.
Les dates, soit le 20 février.
D'accord.
Si tout va bien, le 20 février.
Oui.
Ou le 26 mars.
Très bien.
Voilà.
Quoi qu'il en soit, ça sera un plaisir de vous recevoir ici en direct à la radio lors d'une projection définitive donc en France, et vous serez donc amené à revenir ici à France Maghreb 2. Merci beaucoup monsieur Mahmoud Jenni, donc réalisateur.
Merci, vous êtes
critique
invité
tunisien.
À assister à la projection et surtout à voir à chaud les réactions des gens. C'est plus important.
Exactement, c'est le plus intéressant effectivement. Merci beaucoup et bon retour en Tunisie monsieur Mahmoud Jenni.
Merci monsieur.
quelques événements qui se sont déroulés un 16 janvier avec en 1900 création de la Coupe Davis, 1906 début de la conférence d'Al Jazeera sur le Maroc, 1945 en France nationalisation de Renault, 1956 indépendance de l'Égypte. En 1964, les représentants de 13 pays arabes réunis au Caire décident de la création d'un commandement militaire afin de renforcer leur position face à Israël. Et en 1991, en Irak, l'opération Tempête du désert débute.
Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2.
Le Grand Forum, merci d'être avec nous et en direct en ce jeudi. Nous sommes le 16 janvier, j'espère que vous allez tous bien, en pleine forme jusqu'à 18h avec pour m'accompagner aujourd'hui. Ça fait longtemps, elle est là, notre Céline Bory. Comment ça va ma Céline?
Ça va très bien et je suis ravie d'être de retour.
Ah oui, ça fait longtemps.
Exactement.
Bonne année ma Céline.
Bonne année à toi et surtout la santé.
Exactement, bon c'est gentil. Notre Fifi nationale est partout. Tu sais, Céline.
Ouais, mais moi, il m'étonne.
Oui, il est là. Il est en direct avec nous. Depuis la manifestation, parce qu'il y a encore la 6e journée de mobilisation. Manifestation aujourd'hui, en ce 16 janvier, à Paris. Philippe Boyacki pour le Grand Forum France Maghreb 2. Est-ce qu'il y a du monde, mon Fifi?
Oui, énormément de monde. Énormément de monde. Enfin, peut-être un petit peu moins que samedi dernier, de mémoire. Mais ça arrive, ça arrive. Je suis à Place d'Italie. Je suis en tout début de cortège. Écoute, c'est d'un calme extraordinaire. On sent une tension légère, mais on voit que les gendarmes mobiles viennent de déposer les casques. Ils ont toujours leur bouclier à portée de main. Il n'est pas très loin. C'est l'extension, j'ai envie de te dire, de leurs bras maintenant. Hein, c'est devenu accoutumé. Mais un calme royal. Les manifestants, arrivent à Place Dite. Ça repart, ça glisse tout doucement. Les métros sont ouverts. Incroyable. Vraiment, c'est la première fois que je fais une manifestation avec un climat un petit peu bizarre, où tu sentais qu'il y avait une tension sur les côtés, au niveau des forces de l'ordre, et les manifestants étaient très calmes. Bon. J'ai discuté, j'ai échangé avec ce qu'on appelle les antifas, qui nous ont dit, aujourd'hui, il n'a rien se passé, ils vont être très déçus. Et effectivement,
ah bah oui, forcément.
Il se passe rien.
Alors, tu nous disais dans les lives, qu'on peut suivre d'ailleurs sur la page Christophe Le Grand Forum, les élucubrations de Philippe Boyacki en direct, un dispositif policier extrêmement présent et important aujourd'hui.
Oui, vraiment, honnêtement, tout le long de la manifestation, toutes les rues adjacentes étaient fermées, hermétiques, il était impossible d'en sortir, et parallèlement aux rues qui longeaient la manifestation, un dispositif de sécurité aussi hyper impressionnant. C'est-à-dire que si tu arrives à t'infiltrer là-dedans, tu te retrouves dans une souricière. J'ai l'impression qu'il y a pratiquement, je vais exagérer en disant autant de manifestants que de policiers, ou plutôt autant de policiers que de manifestants, mais vraiment un dispositif ultra impressionnant.
Et pour l'instant, tu le disais, ils sont plutôt sages, ils sont un peu calmés en matière de répression.
Aujourd'hui, oui, aucune occasion n'a été donnée. Il y a eu un petit peu à un moment donné vers le boulevard de l'hôpital, quelques échanges d'œufs et un petit pot de peinture qui a atterri de manière malencontreuse. Mais rien de plus. Et tout le monde est très calme. On a des gens qui sont assis sur la place d'Italie. Vraiment un climat étrange. Peut-être qu'on s'est tellement habitué à des fins de manifestation avec des heures qu'on est tous en attente de dire mais quand est-ce que ça part, quand est-ce que ça commence, et carrément se retrouver de dire on est déçu que ça arrive pas. Alors que c'est comme
Philippe,
ça que je devrais finir.
L'action,
vraiment,
lui.
Incroyable.
Ouais. Philippe Boyacki, juste dernière question, quelle est la détermination maintenant des manifestants, parce que Édouard Philippe a un peu sifflé la fin de la récréation là.
Alors les manifestants se disent oui, Édouard Philippe a voulu siffler sa fin de manifestation et de grève, mais nous on reste déterminés. Alors ils sont déterminés comme jamais. Alors ils sont conscients que financièrement à un moment donné ça risque d'être assis, mais ils sont surpris de la chaîne de solidarité nationale où des caisses sont organisées assez régulièrement. Ça ne suffira pas bien sûr pour combler la perte, mais d'autres formes d'action vont se mener et je pense sincèrement que tous ceux qui sont là dans 59 jours iront voter et par tous les moyens feront battre tous les candidats de la République En Marche, déclarés ou non, parce que comme tu le sais, le livre orange donné par la République En Marche veut dire que si l'endroit est un petit peu difficile, si on n'est pas sorti en tête dans cette ville, eh ben il ne faut pas poser le logo de la République En Marche, sauf que les manifestants, nous ne sommes pas dupes, ils ont été repérés bien en amont, ils sont affichés avec le pouvoir macronien en place. nous irons les sanctionner et nous voterons contre eux. Ceux qui risquent de profiter fortement, et ils en sont bien conscients, au Rassemblement National.
Merci mon Philippe, attention et on suit évidemment les lives en direct sur la page Christophe Legrand Forum tout au long de la manifestation jusque la fin. Philippe Bouriaki, envoyé spécial reporter voilà, en direct pour le Grand Forum et France Magadou.
S'il y a du nouveau.
Voilà, si
sinon,
ça
bonne émission à
si
vous.
Ça chauffe,
à
tu reviens vers nous.
À bientôt.
Lundi vendredi de 16h-19h et pas que.
18h, on s'arrête, il nous faut des heures sup l'autre.
Mais merci. Il s'arrête jamais, c'est normal.
Il s'arrête jamais, Philippe, il est partout. C'est hier, Céline, hier Philippe il me dit je sais pas si je vais y aller, je suis fatigué, tout ça. Mais en fait, c'est de l'adrénaline, tu vois, il peut plus s'en passer.
Mais c'est ça, il fait des piquets la nuit, c'est même pas le matin, c'est la nuit, il fait des.
Non, mais c'est pas ça. Effectivement, oui, pour être complètement honnête avec vous, oui, il y a cette forme d'adrénaline, d'excitation, mais il y a aussi cette forme de partage d'échanges. Alors maintenant, on est identifié, on est très bien identifié, donc les gens nous font des coucous. Beaucoup ont vu nos lives, ils ont vu qu'on reproduisait vraiment ce qui se passait et sans prendre de parti pris. Et on a un accueil vraiment formidable des manifestants. J'ai rencontré beaucoup d'amis, comme vous savez, j'ai eu d'autres activités avant celle de journaliste reporter. Et on a plaisir à revoir celles et ceux qu'on a loupé la semaine dernière. Et je comprends maintenant l'ambiance des Gilets jaunes lorsqu'ils nous disaient on est une famille au bout de plus d'un an de retrouvailles, de combats, de luttes, de coups reçus. Et ben on a plaisir à voir les membres, ses amis et les membres de sa famille. Et on se retrouve dans cette dans ce sillon qui est bénéfique pour tout le monde.
Bon, à tout à l'heure mon Fifi, t'es un peu notre fil rouge de cette émission. Salut Philippe.
À tout à l'heure.
Philippe Bouriaki en direct de la manifestation, la sixième manifestation, mobilisation donc aujourd'hui à Paris. Philippe Bouriaki nous disait un petit peu moins de monde, hein, ce qui est bien un peu normal en fait que les fois dernières. Quoi qu'il en soit, les gens restent quand même fortement mobilisés. Le sujet à la une, c'est parti.
C'est le chauffeur qui décide la pause. Voilà, sans lui, moi, je ne peux pas décider la pause. Moi, je travaille uniquement derrière. S'il me dit descend, tu fais ça, je le fais. Bon, en général, c'est des pauses de 20 minutes. J'avais la douleur sur mon pied gauche et j'enlevais la chaussure de. Les talons, ça me faisait mal, quoi, sur le cheville. Et à un moment donné, c'est là, je me suis allongé, prends mes trucs comme ça, mes bras dans ma tête comme ça. Il y a un inconnu qui passait au lieu qui me demande « Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ?» Il ne m'a pas posé la question. Il est venu directement, il se casse à côté, il prend ma photo, il lance à Roger Sousso, il lance à mon travail. Du coup, moi, je ne suis pas au courant de ces jours-là. Les chauffeurs, ils n'étaient pas au courant. C'est après qu'on nous a convoqués. Qu'est-ce qui se passe le jour que telle date vous avez travaillé? Et bon, ça, c'est votre photo. J'ai dit « Oui, c'est ma photo, bien sûr. » Et ça m'a fait mal, j'ai perdu mon emploi. Par rapport à ma famille, avec mon bébé, pour le faire nourrir, j'ai pas d'emploi, j'ai pas d'emploi. Ça m'a fait mal au cœur quand j'ai perdu mon emploi. Si vous me prenez comme ça, bon, on vous donne un travail à la mairie de Paris, ça me fera plaisir. Bien sûr, j'aime bien être ce boulot dedans, au fond. Mais j'ai pas fait l'école, je peux pas faire concours. Hein.
Il s'appelle Adama Cissé, il est à la une de l'actualité, ma chère Céline, amie auditrice, auditeur, parce qu'il a été effectivement photographié, allongé sur le trottoir lors d'une pause, dit-il, photographié par un passant et qui
une
a été posté.
En l'occurrence.
Ouais, une passante en l'occurrence, et qui a posté cette photo sur Twitter avec ce commentaire, voilà, où on passe nos impôts à payer des gens qui sont en train de dormir. Il était salarié de la société de Richebourg. Il a été licencié suite à une photo volée, donc disais-je sur Twitter, où on le voit donc allongé sur le trottoir. L'homme doit-il être réintégré? C'est la question que l'on vous pose et vous êtes alors là sans appel. 95% sur Facebook France Maghreb 2, Twitter Le Grand Forum FM2 pour voter à dire oui, on doit le réintégrer. Alors cette histoire quand même pose plusieurs problèmes. D'abord le fait que aujourd'hui on peut se retrouver dans n'importe quelle condition ou situation, on peut se faire photographier et se retrouver sur les réseaux sociaux.
Et jeter en pâture.
Et jeter en pâture, voilà. C'est ce qui se passe pour cet homme, vous l'avez compris, c'est un père de famille, il a des enfants, il a une famille à nourrir, et aujourd'hui il se retrouve licencié.
Alors ce qui est important, c'est quand même de recontextualiser la chose, pardon, cette affaire, elle date pas d'hier, puisque cet incident, cette photo, elle a été prise en septembre 2018, de mémoire.
Absolument.
Cette dame, qui n'a toujours pas retiré son poste, enfin, qui, ces derniers jours, n'avait toujours pas retiré son poste, cette parisienne, a pris, la photo d'Adama Cissé, l'a postée sur les réseaux en identifiant son employeur, et, la mairie de Paris, peut-être pas de Richebourg, mais je sais pas si elle a identifié de Richebourg ou la mairie de Paris, mais l'un des deux, en notant la rue et l'heure, de la prise de photo et en disant c'est à ça que servent nos impôts et c'est pour ça que Paris est dégueulasse me semble-t-il ou quelque chose du genre. Ce n'est pas donc c'est par rapport à l'image que son employeur a justifié ce licenciement du fait que cette photo aurait nuit à l'image de la société et c'est après avoir en attaquant donc il a été licencié ça c'est effectif et personne n'en avait parlé et c'est en attaquant son employeur au prud'homme que cette affaire a commencé à être médiatisée que grâce au travail des réseaux sociaux aussi la dame qui a posté ce tweet a pu être retrouvée identifiée donc il y a une espèce de shitstorm à son encontre parce qu'on est clairement sur quelque chose de délétère. Et qu'il y a un gros mouvement de soutien pour Adama Cissé, puisque en plus on est dans un contexte de grève actuellement et de mouvement social, et qu'il a reçu le soutien d'énormément de grévistes et de travailleurs pour soutenir sa cause, pour défendre en tout cas sa cause. Il a été invité sur les plateaux télé, il a été invité chez Cyril Hanouna de mémoire. Et hier, il y a eu un mouvement spontané de grévistes et de syndicalistes CGT qui sont allés investir le siège de Richebourg. À l'initiative, alors je sais pas si à l'initiative, mais en tout cas il y avait Anas Kazib dans le lot,
ouais.
Et ils ont réussi à, donc ils sont arrivés, ils ont vraiment investi les lieux, ils ont réussi à, en mettant la pression à obtenir une discussion avec l'employeur et Monsieur Adama Cissé devrait avoir un entretien très prochainement. C'est en tout cas ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux.
La question est toute simple. Doit-on réintégrer cet homme? Donc, doit-il être réintégré? C'est la question que l'on vous pose au 01 40 33 9000 sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Et au-delà de cette question, évidemment, les questions qui se posent de l'image. Aujourd'hui, on est dans une société de délation, carrément, Céline, faut le dire. Aujourd'hui.
Ouais, ça rappelle des sombres périodes
de l'histoire.
Tout à fait.
Absolument. Et voilà quelles conséquences cela peut avoir dans la vie d'un homme.
Ça peut détruire une vie. Et puis il faut pas oublier en plus que ce monsieur Adama Cissé est un ouvrier, est un éboueur, donc fait partie d'une partie de la population des plus modestes et qui se retrouve accusé, mis au banc, qui n'a plus de quoi nourrir sa famille. Donc moi je pense à titre personnel que non seulement il doit être réintégré, mais en plus il doit être indemnisé ce monsieur
pour le préjudice moral.
Voilà. Moral et financier, hein, pour le coup.
Financier, bien sûr. 01 40 33 9000, votre avis nous intéresse, messieurs dames, pour nous donner un petit peu votre regard sur cette affaire. Ce qui découle évidemment, c'est évidemment de la délation. Et ce que fait remarquer d'ailleurs très justement cet homme, c'est que cette femme qui a pris cette photo n'a même pas cherché à comprendre ce pourquoi ce monsieur était allongé sur le trottoir. Je veux dire, il était peut-être blessé, malade, machin. Elle n'a pas cherché à comprendre. Et ce monsieur était allongé sur le trottoir. Certes, c'était peut-être pas le meilleur endroit où il fallait s'allonger, mais est-ce que ça prévaut derrière un licenciement? Et c'était surtout pendant une heure de pause, dit-il, hein. Céline.
Oui, c'est la justification et les arguments que tiennent son avocat, à savoir que c'était son chef, puisque lui, Adama Cissé, si j'ai bien compris dans une vidéo, dit qu'il n'a pas le permis. Donc c'est le conducteur du camion des boueurs qui lui donne l'autorisation de prendre une pause. Et comme il avait des douleurs à la cheville, et qu'il dit, d'ailleurs il en parle dans son interview, il dit qu'il avait eu un arrêt de travail, ou en tout cas un certificat du médecin antérieur justifiant de cette douleur, il enlève ses chaussures et son patron lui dit mets-toi en pause, et il enlève ses chaussures parce qu'il a mal et il s'allonge. Donc oui, il y a un vrai aspect délétère. Et puis il y a un licenciement qui me paraît peut-être abusif aussi sur cela. Et encore une fois, c'est un ouvrier, c'est un éboueur et c'est une des franges les plus fragiles de la population. Beaucoup de gens se sont amusés sur les réseaux sociaux à comparer la photo d'Adama Cissé qui dormait sur un trottoir avec des députés à l'Assemblée qui s'endorment.
Ouais.
Pendant.
Et eux, ils sont pas licenciés.
Qui ne sont pas licenciés, tout à fait.
Ouais.
Donc la comparaison a été faite, sur beaucoup sur les réseaux sociaux. sur ce fait, sur le fait qu'on avait beaucoup de photos.
Effectivement, très bonne comparaison. Si on devait effectivement, alors en plus eux ils sont filmés, hein.
Eux sont filmés, eux sont dormis, eux sont absents.
Ouais, eux sont absents ou on les voit en train de s'endormir, surtout au Sénat, mais bon c'est peut-être dû à l'âge avancé.
À l'âge avancé.
Des sénateurs et sénatrices, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on les voit franchement régulièrement dormir parce qu'ils ont des séances de nuit aussi de temps en temps et puis peut-être voilà, bon, ils n'arrivent plus à suivre ou ça les intéresse pas, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, on les voit pour quelques-uns d'entre eux dormir. Ce monsieur, il fait un boulot absolument difficile, hein. Les boueurs, c'est quand même pas le boulot le plus facile.
C'est clair. En termes de pénibilité, il y a mieux.
Il y a mieux, voilà, absolument. Et ce monsieur, voilà, était, dit-il, blessé. Il avait mal à la jambe. Il s'est allongé sur le trottoir. Moi, ce qui m'interpelle dans cette histoire, Céline, amie auditrice auditeur, c'est que au-delà du fait de prendre la photo, c'est que la dame n'a même pas cherché à comprendre et à parler avec cet homme pour lui dire et lui demander ce pourquoi il était allongé sur le trottoir. Tu vois, en fait, on s'habitue aujourd'hui à cela. Quand on voit quelqu'un allongé sur le trottoir, ça nous choque même plus, quoi. Ça devient quasi normal.
Oui, et puis on est dans une génération buzz, dans une génération instantanée. On va filmer, on va prendre en photo tout et n'importe quoi sans forcément se poser la question des conséquences. Qui s'en suivent. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est-à-dire que cette dame prend une photo à un moment T sans chercher à comprendre. Donc déjà, pour moi, c'est pas légitime. Mais au-delà de ça, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises à vérifier, mais il me semble que De Richbourg là lui a répondu et lui a dit qu'ils allaient faire le nécessaire. Il me semble qu'elle a été mise au courant que cet homme allait être sanctionné, en tout cas licencié, et qu'elle ne retire pas son poste. Je veux dire, à un moment donné, en tant humainement parlant, tu te dis ok, j'ai dénoncé quelque chose, mais cette personne risque de perdre son boulot, et tu laisses ce tweet. Il y a quelque chose d'assez dérangeant. Donc est-ce qu'il y a pas est-ce qu'il y a pas aussi une notion de racisme aussi, je sais pas, je pose la question. Dans cette photo, dans ce poste, dans cette délation, je ne sais pas.
Vos commentaires, en tout cas, 01 40 33 9000, il y en a pas mal d'ailleurs du côté de Facebook, la page Le Grand Forum, Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2, pour voter et répondre à cette question. Est-ce que cet homme doit-il être réintégré? Vous laissez vos commentaires, vous nous appelez si vous le souhaitez, 01 40 33 9000. Vos avis nous intéressent évidemment sur ce sujet, en direct à la radio. Allô, bonjour, qui est avec nous?
Bonjour
Sabrina, vous nous appelez d'où, chère Sabrina?
Bonjour Sabrina.
De Paris.
De Paris, soyez la bienvenue. Vous faites quoi dans la vie, Sabrina?
Je travaille dans la banque.
Ah, bon, très bien.
C'est pas grave, Sabrina.
Ça arrive. Hein. Sabrina, cette affaire, est-ce que cet homme, en l'occurrence Adam Assissé, doit être réintégré selon vous?
Mais complètement, complètement. Moi, j'ai été choquée déjà d'une part, effectivement, la délation.
Ouais.
Après, le fait de parler des réseaux sociaux, bah. On peut pas condamner les réseaux sociaux et en même temps, sans les réseaux sociaux, on n'aurait pas entendu parler de ce pauvre petit monsieur.
Tout à fait.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est-à-dire que les gens ne se seraient pas mobilisés pour demander sa réintégration.
C'est-à-dire qu'on
n'a d'une part la réintégration, mais surtout lancer un appel à ces personnes, parce qu'effectivement, le fait qu'elles ne se soient même pas arrêtées pour savoir ce que ce monsieur avait peut-être, enfin, la pénibilité de leur travail, on la connaît, on n'a même pas besoin de... Enfin, elle a oublié que ce monsieur ait ramassé certainement ses ordures. Et je trouve ça, je sais pas comment dire, on est dans une société où les gens ne se soucient plus du tout de l'autre. Et ça m'a profondément choquée. L'entreprise, bon, j'en parle même pas. J'espère sincèrement qu'il va être non seulement réintégré, dédommagé, comme vous l'avez dit, financièrement, et qu'il ait aucune perte. Et j'aimerais aussi que cette dame s'excuse. Qu'elle s'excuse publiquement pour son geste. Je dis pas qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dénoncer sur les réseaux sociaux. Mais dénoncer comme ça, sans savoir, enfin, une image, elle veut dire tellement de choses. Donc j'ai trouvé ça très très choquant. Moi, ça m'a beaucoup choqué.
En fait, ce que je retiens de votre commentaire, c'est que les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est l'usage qu'on peut en faire et qui peuvent avoir des conséquences terribles parfois.
Mais oui, on doit se limiter. Enfin, comme lorsque, enfin, pas que sur cette publication, il y a des publications parfois, ce qu'on appelle maintenant les fake news. Et oui, personnellement, par exemple, je vais pas m'amuser à partager un article si j'ai pas vérifié les sources. Enfin, une information ne se partage pas comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont spécialisés, qui mènent des enquêtes avant de publier quoi que ce soit. Bon, après, tous n'ont pas la même expertise. Hein. Moi, je suis plutôt pro-Mediapart qu'autre chose.
Ouais.
Mais un minimum, quoi. Je pense que nous, à tout à chacun, on devrait quand même se poser la question avant de partager une information comme celle-ci, par exemple. Et elle aurait dû, dans un premier temps, s'arrêter et demander à ce monsieur qu'il n'avait pas besoin d'elle. Que ce soit sur son temps de pause ou non, pour moi.
Il y a quelque chose. Pardon.
Oui, allez-y, je vous en prie.
Il y a quelque chose aussi qui moi m'a interpellée. Cette dame dans son poste, donc en prenant la photo en commentaire, a dit c'est pour ça que Paris est dégueulasse. Non, c'est pas parce que les éboueurs ne font pas bien leur travail, c'est aussi parce que les gens, personnes ne sont pas responsables et jettent leurs déchets n'importe où et n'importe comment. Donc c'est une sorte de déresponsabilisation. Enfin, ce genre de propos, moi me fait penser que cette dame pense que les éboueurs et les agents d'entretien sont là pour ramasser leur saleté et voilà exactement. Il y a quand même un profil de dominant sur ce propos.
J'ai entendu quand vous souleviez la possibilité, l'éventualité d'un propos raciste. Moi, je ne vais pas aller là sur ce terrain-là.
Je sais
même
pas.
Si c'est courant dans notre société, hein, c'est courant. Mais encore une fois, moi, sans preuve, j'ai du mal à aller sur ce type d'allégation. Mais effectivement, c'est une question qu'on est en droit de soulever.
Bien sûr.
Mais ça donnerait un caractère encore plus grave à ces agissements.
Sabrina, vous qui êtes dans la banque, vous nous confirmez que le livret A va fortement baisser là, à partir du 1er février?
Oui, mais c'est pas les banques qui décident de ça. Ça, c'est notre société
d'une manière générale. Je sais, mais oui.
Bon, déjà, on était à 0,75. C'était pas non plus transcendant. Hein.
0,5.
Ça fait longtemps que c'est plus rentable, le livret A.
Là, il faut plus conseiller aux gens de prendre des livrets A, Sabrina. Faut arrêter, hein, avec cette arnaque.
Il y en a plus beaucoup qui le prennent. Il y en a plus beaucoup qui le prennent, quand même.
Ouais. Mais d'ailleurs, quel est l'avantage du livret A? Aucun?
Ça dépend. Pour les petits épargnants, ça peut être une solution, bon.
Ouais, bon, très bien. Et vous vendez quoi? Vous vendez vous vendez quoi? Des produits? Vous vendez quoi exactement? Vous êtes conseillère?
Des services et des produits, les deux.
Merci beaucoup Sabrina, en tout cas merci de votre appel et à très très bientôt.
Merci Sabrina.
01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler en direct sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum pour nous donner votre avis sur le sujet comme vient de le faire Sabrina qui trouve ça un peu pour faire simple dégueulasse évidemment la méthode. Un autre appel par ici, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour madame, quel est votre prénom?
Allô?
Oui, bonjour madame, quel est votre prénom?
Là.
Pardon, vous n'avez pas entendu.
Anna.
Ah, très bien.
Bonjour.
Anna. Voilà. Anna Guézard-Boicaz qui arrive dans quelques instants. Vous avez le même prénom qu'Anna. Vous êtes où, Anna? Dans quelle ville?
On est dans le 45, dans une petite qui s'appelle Pithiviers.
Ah, je connais très bien.
Vous êtes loin.
Vous savez que je suis né à Montargis.
Ah, bah voilà.
Vous avez croisé Quentin de Montargis? C'est moi.
Pas encore.
Pithiviers. Alors là, franchement, bon, fallait le faire. Anna, vous faites quoi dans la vie, Anna?
Je suis étudiante en droit du travail. Hein.
Ah bah très bien, alors en droit du travail, parfait. Alors cette affaire doit certainement résonner dans votre cursus.
Alors tout simplement, moi ce que je comprends pas, c'est que déjà le licenciement lui-même est plus qu'abusif. Hein, parce que si vous voulez, ils sont basés sur un fait, sur les réseaux sociaux, la personne qui a mis la photo doit être punie par la loi parce qu'on peut pas photographier les gens à leur insu et les mettre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le monsieur doit porter plainte pour délation ainsi pour prise de photos à son insu. Ça, c'est la première des choses. Mm-hmm. Une entreprise n'a pas le droit, mais quand je dis n'a pas le droit strictement par le code du travail, de licencier sur des faits des réseaux sociaux parce que pour la simple raison, dans notre cher pays, on n'a pas encore mis les mesures en place pour pouvoir stopper, je veux dire, ce phénomène qui nous dépasse tous. Parce que ça ruine la vie des gens. Clairement, là, on est en train de jouer avec la vie de quelqu'un. Hein, d'après ce que je fais comprendre, le monsieur a un enfant en France, 4 à l'étranger. Ça veut dire, voilà. Et la troisième chose que je voudrais soulever, c'est-à-dire que la personne aurait pu être en accident de travail et à aucun moment ça alerte personne. Parce que, bon, la douleur qu'elle avait au niveau de sa cheville, qui a été reconnue par un médecin de travail, et que l'entreprise avait déjà un certificat médical qui a été transmis.
Alors moi j'avais cru comprendre, mais arrêtez-moi si je me trompe, qu'il avait été en arrêt de travail et qu'il venait de reprendre. J'ai cru comprendre
exactement,
que c'était
ça. Exactement, mais ça veut dire qu'il y avait déjà des antécédents médicaux.
Tout à fait.
Suite à ce qui s'est passé, ça veut dire que la personne, d'après ce qu'elle dit encore une fois, les dires de ce monsieur, et il avait une douleur au niveau de sa cheville. Mm-hmm. Et on a aucun moment on a soulevé un accident de travail, à aucun moment on a soulevé quoi que ce soit. On a pris des mesures disciplinaires qui n'ont pas lieu d'être pour un licenciement abusif. Enfin, moi, cette histoire devant un prud'homme, enfin un juge, il va gentiment rigoler parce que c'est un licenciement abusif et puis le monsieur il est en droit de les attaquer bien comme il faut, que ça soit l'entreprise de Rochefort faut que ça soit la personne qui a pris la photo parce que.
Ah oui, la personne qui a pris la photo risque aussi des choses. D'accord, très bien. Bah voilà. Oui, c'est très bien.
C'est-à-dire que la personne, elle a pris la photo sans demander l'autorisation d'image, hein, ce qu'on
effectivement.
Appelle l'autorisation d'image. Maintenant, aujourd'hui, pour photographier qui que ce soit, vous êtes obligé de faire signer la personne une autorisation. Alors là, c'est des dommages et intérêts. Et la personne, elle a intérêt, que ce soit d'un cadre raciste ou d'un cadre dominant ou ce qu'on veut, la personne, aujourd'hui, elle risque gros par rapport à son acte.
Alors, moi, j'ai une question, justement, par rapport à cette notion de droit du travail.
Rapide, pardon.
Vous parlez, on a évoqué le risque d'image, qui serait l'argument donné par De Richebourg pour avoir licencié Adama Cissé. Vous nous dites qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils ne peuvent pas utiliser cette image, que ça ne peut pas être un motif.
Non, je vais vous dire pourquoi. Pour la
Anna, tu bouges pas, s'il te plaît, on se débarrasse de la pub, hein, vite fait, et allez. Tu finis ton explication et la réponse à la question de Céline Bory à suivre dans un instant. Les rendez-vous d'Anna, oui, le jeudi aussi, c'est à n'importe quel moment, les rendez-vous d'Anna, avec un invité de renom. On va parler avec un designer. Yeah, à tout de suite. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous, avec Céline Bory pour m'accompagner. On parle de cette affaire Adama Cissé qui a été licenciée par la société de Richebourg suite à une photo qui a été postée sur Twitter, et une photo sur laquelle on voyait donc Adama Cissé allongé sur le trottoir, pieds nus, se reposer durant une pause parce qu'il avait une souffrance donc à cette cheville. Et cette dame a posté cette photo avec ce commentaire suivant: voilà à quoi sert notre argent à payer des gens qui s'allongent sur un trottoir. Ça a pris beaucoup d'ampleur, d'où la question du jour: doit-il être réintégré? Il y a des discussions en cours en ce moment, et vous êtes sans appel, évidemment, 95% à dire oui, il doit être absolument réintégré. Sur Facebook pour voter France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2, et en nous appelant d'ailleurs, on est avec Anna, perdue dans la campagne du 45 du côté de Pithiviers. Alors Anna, qui est étudiante en droit, il n'y a pas de faculté
Orléans.
Ah, c'est Orléans, d'accord.
Ah, il y a Orléans, hein.
Ouais, c'est vrai, Orléans. Céline, posez ta question. C'était quoi ta question, Céline?
C'était de savoir, en fait, Anna disait que le fait de le motif de licenciement lié à cette photo était illégal, semble-t-il. C'était pas un motif valable pour l'employeur. Donc on parle souvent du risque d'image dans les entreprises.
Alors le risque d'image, hein, si je peux me permettre, Céline. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui distribuent des goodies avec leur logo dedans, d'accord? Moi, je vous prends un exemple, les agences d'intérim. Hein, et souvent, ils donnent à leurs intérimaires des gilets avec les logos bien ancrés dedans. Ça veut dire que demain, un intérimaire prend une veste de XY raison, en parlant de Richebourg, parce qu'ils ont une agence, s'allonge sur un herbe, ou peu importe, c'est une connerie, une bêtise. On va faire comment? C'est l'image de l'entreprise.
Oui, mais en même temps, dans un autre contexte, il y a eu la polémique sur le slip français où des employés ont fait des blackface et l'ont posté sur les réseaux sociaux et où certains demandent leur licenciement. Donc, est-ce que c'est légal ou pas? Est-ce que la société...
Mais bien sûr que non.
D'accord. Alors,
l'entreprise, qu'ils sont en train de faire, tout simplement, c'est déduire, mais vraiment leur image au plus bas. Parce que pour la simple raison, là, on est sur un cas de licenciement abusif, parce que, déjà, d'une, pour commencer, hormis cette histoire d'image, quoi qu'est-ce, s'il y a une personne vers qui il devrait se diriger, c'est vraiment la personne qui a pris la photo, parce qu'encore une fois, on a pris une photo à l'insu d'une personne, là, c'est puni par la loi, et c'est pas un motif. On ne peut pas licencier quelqu'un sur une photo qui est prise à son insu, postée sur un réseau social. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le cheminement, déjà, il est complètement faux.
D'accord.
Très bien. En tout cas, merci pour les éclaircissements, ma chère Anna. Vous êtes quoi? Vous êtes marocaine ou algérienne?
Je suis marocaine.
Ah, bah très bien. Alors restez à l'écoute parce qu'on va parler avec un designer de caftan marocain. Ça vous intéresse, vous, Anna?
Ah, bah avec plaisir.
Ah, bah voilà.
Marocain, c'est les plus beaux caftans du monde, c'est les plus belles robes du monde.
Ah bon?
Ah bah écoutez.
Doit pas y avoir beaucoup de caftans marocains du côté de Pithiviers. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon.
Si.
Quoi?
Il y a des marocains du côté de Pithiviers.
Ah bon?
Il y a des marocains du côté de Pithiviers, il y en a pas mal. Hein.
Ah bon, d'accord.
Ils sont partis. Il y a plus de marocains que d'algériens, je pense d'ailleurs.
Ils sont partis se cacher dans le 45, les marocains. Hein? Voilà, c'est ça.
Ouais, voilà, on est fiché 45. Hein. Faut pas qu'on mette des tenues, sinon on va être tous licenciés alors.
Non mais ça se
passe. 36 mois, pas parce que je dis ce que je pense. Hein,
ça se passe bien, Anna, franchement, dans les campagnes, tout ça, ça va avec la France profonde, tout ça.
C'est dans les campagnes, c'est calme, mais j'ai envie de vous dire, c'est là où il se passe plus de choses.
Ah bon?
Ah bah bien sûr.
Il se passe des choses.
Ah bah bien sûr, dans les campagnes, vous rencontrez des personnes qui sont encore dans leur campagne d'ailleurs, et du coup vous sortez un peu de l'ordinaire, bah forcément vous choquez tout le monde, et puis il y a plus de meurtres dans les campagnes.
C'est là où il y a tous les serial killers, faut pas l'oublier. Hein.
Ah ouais, bah je suis bien content d'habiter la ville, moi alors. Hein?
Bah écoutez, vous avez bien raison.
Voilà. Merci Anna, en tout cas, restez fidèle à France Maghreb 2, le Grand Forum. Merci Anna.
Merci.
Au revoir, à bientôt. Voilà, bon, en tout cas, vous continuez de voter hein, sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter Le Grand Forum FM2 pour répondre à cette question du jour, cette affaire qu'on va suivre de près, qui devrait peut-être aboutir par une réintégration de cet homme, Adam Assissé, dans la société d'Orichebourg qui, donc, vous le savez, l'a licencié. Allez, c'est parti, messieurs, dames. On est jeudi, nous sommes le 16 janvier. Et c'est un jour inhabituel, mais les rendez-vous d'Anna peuvent débarquer à n'importe quel moment. Et j'aime bien quand je suis à l'heure, il est 17h pile. C'est donc parti pour les rendez-vous d'Anna sur France Maghreb 2.
Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna.
Eh oui, le jingle c'est le lundi, mais non, aujourd'hui c'est jeudi, tout va bien. Anna Guézard-Boicaze, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour mesdames et messieurs.
Bonjour Anna, alors aujourd'hui tu n'es, comme d'habitude, pas venue seule.
Eh ben heureusement, mon invité aujourd'hui est un grand nom dans la mode. Moi, je le qualifie du roi du caftan. Il s'agit de monsieur Emin Mrani, créateur de mode d'origine marocaine, basé à Rabat, donc il nous vient directement du Maroc. C'est pour ça qu'on a eu un peu de soleil aujourd'hui à Paris.
Ah, d'accord, j'ai compris.
C'est aussi l'organisateur de l'événement mondialement connu Caftan du Maroc, qui a lieu chaque année en Russie, à Dubaï, à Londres, ici à Paris, à l'hôtel Georges V, pour ceux qui...
Oui, on connaît.
Voilà.
Ouais.
Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble son univers fermé et sélect de la haute couture. Bonjour, monsieur Mrani.
Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être
là.
C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de vous interviewer aujourd'hui. Je suis une grande fan de caftan et j'ai énormément de questions à vous poser. Voilà. À Christophe.
Eh ben, on y va alors. On va découvrir cet univers que Céline et moi connaissons peu, hein, d'ailleurs.
Qu'est-ce que t'en sais que je ne connais pas?
Parle pour toi.
Oui, voilà, pardon.
Alors, monsieur Mrani, vous n'avez pas cherché votre métier, vous, hein. C'est le métier qui vous a choisi. Vous avez toujours baigné dans la mode, les parents, tantes, cousins, cousines. Vous êtes une famille de couturiers.
Exactement. Même arrière-grands-parents.
C'est impressionnant d'avoir autant de membres de la famille dans le même domaine.
Exactement, oui. Mais bon, moi, quand j'ai repris le métier, j'ai essayé de voir ce métier avec mon œil personnel.
Oui.
Parce que c'est vrai que, par exemple, moi, je parle de mes parents. Ils travaillaient de la façon traditionnelle, c'est-à-dire la dame, il y a quelques années, il y a 20 ans, la dame ramenait son tissu pour le faire coudre.
Oui.
Et c'était tout le temps un caftan, voilà, Beldim, Khzani. Et quand j'ai, voilà, avec toutes les années que j'ai passées à côté d'eux, j'ai découvert très tôt que il y a vraiment une grande demande vers, on va dire, un nouveau style de caftan.
D'accord.
Et par la suite, j'ai décidé de faire mes études de mode. Et j'ai fait aussi le marketing de la mode que j'adore. Et grâce à ça aussi qu'aujourd'hui, j'organise des événements. Et par la suite, j'ai vraiment tout changé. J'ai changé carrément toute la stratégie de notre maison de couture.
Moi, ce que je trouve excellent...
Parlez bien près du micro, s'il vous plaît, monsieur.
Ce que je trouve excellent, c'est que même si il a toujours eu un don et qu'il a toujours été baigné dans la mode, il a quand même fait... Vous avez quand même fait des études dans la mode pour pouvoir vous perfectionner, etc.
Oui,
c'est très important.
Hein. J'étais conscient que si je voulais vraiment avancer très, très... Bon, on va dire loin, il fallait faire des études profondes de la mode. Oui.
Alors, monsieur Mrani, vous avez toujours rêvé d'emmener la mode marocaine vers d'autres horizons. C'était votre but, hein, dès votre jeune âge. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez réussi ce challenge?
Réussi, honnêtement, je suis fier aujourd'hui parce que c'est vrai que pour moi c'était un rêve que ça sera, voilà, je me disais un jour est-ce que je vais vraiment y arriver, et je disais jamais que je vais réaliser l'événement le plus important, voilà, de tous les événements. C'était un challenge, mais j'y croyais beaucoup. Et même aujourd'hui, réussir, c'est un gros mot parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, j'ai encore beaucoup de projets.
Vous êtes très ambitieux.
Et
bravo.
Ce qu'on a fait il y a quelques années, ce n'est pas que la couture marocaine, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'Algériens aussi qui participent avec nous. Et ce mélange, ce cocktail, au début, même des personnes, ils ont dit que voilà, il va y avoir quelques concurrences, mais au contraire,
oui, ce mélange va donner. Justement, je voulais vous poser la question. Lorsque vous-même êtes designer et que vous organisez un événement comme Caftan du Maroc, maintenant mondialement connu, on dit, il y a une expression chez nous, enfin en arabe, on dit adouka adouka, que ça veut dire votre ennemi, c'est le concurrent.
Ça c'est clair.
Et comment vous arrivez à gérer
Ça c'est clair et net, mais quand vous maîtrisez votre les deux volets, parce que eux ils ont essayé, ils ont participé avec d'autres événements, ils ont participé avec on va dire d'autres manifestations de mode, mais moi c'est pas pour me vanter, mais je maîtrise quand même mon métier et je sais faire la part des choses. Quand j'organise un événement, je l'organise pour tout le monde. Ça veut dire que je me favorise pas, au contraire.
Oui.
Il faut rester neutre. Et quand tu es dans le métier, il n'y a pas mieux que on va dire quelqu'un qui est dedans pour exceller dans ce métier-là.
Ça s'appelle avoir la conscience professionnelle aussi vraiment.
Oui,
Monsieur Mlani, le caftan est le vêtement officiel des membres de la famille royale. Hein. Et c'est un vêtement très classe, c'est certain. Toutes les femmes ne me diront pas le contraire. Même si on l'a vu dans des événements prestigieux, comme au Festival de Cannes, etc., il reste un peu moins demandé que les robes modernes. D'après vous, est-ce que c'est le fait qu'il ne soit pas dénudé, pas trop scosse qu'on ça, appelle sexy.
Ça, c'est une.
Pourquoi les stars américaines ne portent pas, par exemple, le caftan?
Il y en a beaucoup de stars qui ont porté des caftans. Il y a beaucoup de.
Oui, mais ça reste moins demandé. Est-ce que c'est parce que, justement, il n'y a pas le côté trop sexy?
Jennifer Lopez, elle l'a porté?
Aucune idée.
Je crois pas.
Aucune idée. La présence du caftan ou bien du caraco algérien, moi je parle du caftan marocain. Il manque beaucoup de, on va dire, du côté marketing. Mm-hmm. Par exemple, si on fait l'exemple, par exemple, ici en France ou bien en Espagne, l'État a beaucoup investi pour le développement des maisons de couture, mm-hmm, et dans les designers. Mm-hmm. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de jeunes créateurs marocains qui aujourd'hui ont beaucoup de créativité, mais ils ne trouvent pas de sponsors, mais ils ne trouvent pas de partenaires pour réaliser leur rêve. Même nous, des fois, on a envie de porter avec nous des jeunes créateurs, mais on trouve des difficultés pour convaincre d'autres partenaires qu'ils peuvent les épauler pour réaliser leur... Parce que pour arriver à ces stars, ces grandes stars, il faut vraiment être créatif. Mmh. Il faut avoir aussi un nom derrière.
D'accord.
Parce qu'une star ne va pas porter quelque chose que comme ça. Il faut avoir aussi une présence. Par exemple, on va pas partir loin. Ici à Paris, vous connaissez qui comme créateur marocain qui est installé à Paris?
Je connais que vous, franchement. Vous n'êtes même pas installé à Paris, mais je connais.
Il y en a des créateurs, mais des maisons de couture, il y en a pas.
Mais pourquoi les célébrités mondialement connues, par exemple, elles font appel aux créateurs libanais? Et forcément.
Non, mais vous avez raison. C'est vrai que les robes, ils sont plus adaptés qu'un caftan.
Oui.
Ça c'est clair. Mais il y en a des.
Même si vous, votre plus grande clientèle, j'imagine, c'est la clientèle arabe, les familles royales, etc. Elles adorent les caftans.
Exactement,
marocains.
Oui.
Vous vendez très bien, vous travaillez très bien avec les Émiratis, avec des Saoudiennes, etc.
Même les Marocains, même les Algériens.
Oui, ça c'est notre. C'est parce que c'est notre vêtement officiel, quoi.
Oui.
Ah, Céline a une question.
Juste une question.
Oui.
Je voudrais avoir un petit rappel historique sur l'histoire du caftan, qui, je pense, vient d'une région en particulier. Si c'est comme en Algérie, où on a les robes oranaises, les tenues kabyles, etc. Ça vient de... Quelle est l'histoire même du caftan?
Ça, c'est une question qui peut créer la polémique, là. Tout le monde se dit, ça vient de chez nous.
Oui, voilà, c'est ça.
Ah, tout le monde...
Dites-nous la vérité.
Oui.
On est là pour dire
oui.
La vérité. Ça vient d'où, le caftan? De quelle région du Maroc?
C'est pareil comme en Algérie. Il y a des caftans chamel. Il y a des caftans fessi, mknassi,
rabati. Donc le caftan est marocain, mais chaque région a sa spécificité.
Il y a une grande partie qui dit que l'histoire du caftan vient des Turcs, de D'accord. la colonisation oui. ottomane. Ouais, donc ça ne revient ni à...
Allez hop, voilà, personne.
Voilà, ni aux Algériens, ni aux Marocains. Parce que vous savez, tu sais, le bey, etc., ils portaient des caftans avec des D'accord. grosses ceintures, etc. D'accord. Et lorsqu'ils ont colonisé le Grand Maghreb, apparemment, cette culture, enfin, oui. cette mode-là... On l'a récupéré. Voilà, tu as posé la question.
C'était une question historique. Hein.
Oui. Et puis après.
Mais est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'on peut considérer finalement, ça c'est mon esprit un petit peu qui va de travers de temps en temps, que le caftan est un petit peu le costume pour les hommes.
Avant, c'était le costume pour les hommes.
Ah bon c'était pour le bey, hein. Le bey. Turcs, etc. Ah, oui. Les hommes influents, les hommes du
Même
gouvernement.
Même la ceinture, c'était porté par les hommes sur les caftans avant.
Et maintenant, dans des musées, par exemple à Topkapi à Istanbul, on retrouve le vêtement, voilà, le caftan du bey, il est exposé et on comprend, on réalise vraiment qu'il y a une énorme ressemblance. Oui. Que maintenant,
il y
a le caftan.
Une inspiration, en fait.
Absolument, le caftan qu'on porte aujourd'hui descend de.
Aujourd'hui, le succès du caftan, moi, personnellement, je le vois par rapport à l'excellence des designers qu'ils ont excellé dans le caftan. Mmh. Aujourd'hui, encore, on voit qu'il y a des designers algériens qui excellent encore dans le caraco. Mmh. Et c'est ça qui va pousser cette mode, on va dire, nord-africaine vers une mondialisation, vers toucher les grandes célébrités. Parce que c'est comme ça que la mode se développe aussi. Elle touche des célébrités.
On l'a vu quand Madonna a porté des bijoux berbères et des tenues berbères avec
magnifique.
Tout le buzz que ça a fait.
Oui, c'est ça.
Et les accusations d'appropriation culturelle qui en ont découlé. Mais bon.
Oui, mais le problème... Moi, je le vois qu'on n'a pas une présence à l'international. Mm-hmm. Il y a beaucoup de grands salons, on va dire aux États-Unis, ou d'autres pays, où il n'y a pas une présence.
Justement, c'est votre idée. C'est par là que vous avez créé le caftan du Maroc.
Maintenant, vous
défendez le caftan et vous le présentez un petit peu partout dans le monde.
C'est ça. Moi, j'ai vu qu'il n'y a pas une il n'y a pas un événement qui représentait vraiment bien le caftan. Et c'est là la naissance d'idée. Je me suis dit que voilà, il faut que quelqu'un crée un grand
caftan. Et ce que vous faites, c'est que vous rassemblez plusieurs créateurs. Et oui, vous les emmenez un petit peu exposer leurs articles, leurs caftans en Russie, aux États-Unis. On peut savoir où est-ce que vous avez...
Là, on a plus une présence, on va dire, aux Émirats Arabes Unis, ici en France, au niveau des événements. Et c'est vrai que on réalise des événements aux États-Unis, Londres, en Europe, par exemple, Bruxelles, Amsterdam, Vienne... mais certes que Paris, ça reste un cachet unique.
Et vous avez une préférence pour le Georges V, hein, ici à Paris, parce que chaque année, vous le faites au même endroit.
Vous savez que des fois, il y a le feeling qui passe. Il y a aussi le côté professionnel. C'est une équipe extraordinaire qui nous facilite aussi le travail. Il faut savoir que le Georges V, c'est une clientèle du golf aussi qui séjourne au Georges V.
Absolument.
Et ça aussi, c'est intéressant.
Ah, ça se voit que vous avez fait des études de marketing.
Ça aussi, c'est intéressant. Nous, quand on réalise un événement, moi, personnellement, j'étudie tout l'événement. Mmh. Quand je réalise à Abu Dhabi, il faut toucher vraiment la crème de la crème. Dubaï ou bien Paris.
Oui, monsieur Marani, pour avoir assisté moi à votre événement l'année passée, le caftan du Maroc, je rappelle, c'est un événement magnifique, hein, grandiose, que ce soit la décoration, même les présentations. Je me souviens, l'actrice, elle a plusieurs talents, Leila Hediwi avait défilé, etc. Et j'avais remarqué que vous n'aviez pas uniquement une clientèle arabe. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'étrangers, des Européens, etc., qui étaient subjugués par les créations.
On reçoit beaucoup d'Européens, des créateurs aussi, qui viennent pour s'inspirer.
Oui.
Pour s'inspirer des broderies, des couleurs, des coupes. Il y a beaucoup de créativité.
Justement, le caftan marocain a été repris, on va dire. Enfin, le caftan, le caftan marocain par habitude. Mais le caftan a été repris par les grands créateurs du monde entier. Je peux citer Roberto Cavalli, qui en a fait une collection. Il y a Yves Saint Laurent, etc. Est-ce que vous, en tant que créateur, est-ce que c'est une fierté pour vous ou vous estimez qu'on vous vole votre héritage
Non, c'est une fierté. Parce que quand on s'inspire de votre culture, ça veut dire que vous avez une culture.
Que vous avez réussi.
Quand je voyage et je vois qu'il y a que les plus grands palaces de grandes capitales, qu'il y a un coin marocain, qu'il y a un restaurant marocain, c'est une fierté.
Ah, il y a des restaurants marocains partout, c'est pour notre plus grand plaisir.
Oui, il y a des grands palaces.
Est-ce qu'on peut considérer que Paris est la capitale de la mode?
Oui.
Oui. C'est incontestable.
C'est incontestable. Pour moi, c'est sûr et certain. J'ai fait le tour et c'est vrai que Paris reste Paris.
Paris est magique, évidemment.
Paris est magique. Tu l'as placé.
Bah oui, fallait que je le place.
Monsieur Maladie.
Et il faut savoir que ce n'est pas par hasard que... ce n'est pas par hasard que Paris, c'est la première aussi capitale touristique.
Ouais.
Parce que même la mode attire beaucoup des touristes.
Mais pourtant, les touristes ne sont pas franchement très bien accueillis, entre les grèves, entre les manifestations, les images qu'ils peuvent voir quand ils arrivent de Roissy, c'est pas franchement une belle image, hein.
Ça peut faire le charme parisien selon.
Ah oui. Ouais, d'accord.
Pour ceux qui aiment un peu l'action. Et
vous les aventuriers. Pourquoi pas ouvrir une boutique à Paris?
On est en train de réfléchir à ça. Mm-hmm. Certes que nous avons une grande demande. Nous avons beaucoup de clientes qui viennent au Maroc acheter, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui ça devient très très important et intéressant d'ouvrir un point de vente ici.
Absolument. Et j'imagine que si vous allez ouvrir, ça sera dans les beaux quartiers avec les autres boutiques.
Aucune idée.
Dès maintenant, où ça va se trouver.
Il faut rester réaliste aussi, mm-hmm. parce que il faut calculer aussi, parce que il faut faire un business plan.
Oui.
On peut pas que ouvrir pour être dans un beau quartier et après ne pas développer le business.
Absolument.
L'objectif c'est quoi? C'est d'ouvrir dans plusieurs capitales, c'est d'être présent dans plusieurs lieux à travers le monde.
Moi je pars dans une idée de partir petit à petit. C'est vrai qu'on est grand, mais on peut pas ouvrir plusieurs points de vente. Déjà si on réussit un seul, là on peut
chaque pierre après chaque pierre.
Exactement.
Un auditeur m'appelle, me dit attention, vous avez peut-être dit une bêtise, le Maroc n'a jamais été colonisé par l'Empire turc.
Ça s'arrêtait à l'Algérie.
Voilà. Non mais il a bien fait d'appeler parce que c'est vrai, le Maroc n'a jamais été colonisé par l'Empire turc.
Autant pour moi.
Contrairement à l'Algérie, effectivement. Ça peut arriver, on peut dire des conneries de temps en temps et heureusement que vous êtes là pour nous rectifier. Hein. Très bien. Anna.
Alors, monsieur Malani, vous vous concentrez sur le caftan de la mariée, hein, ou de la femme mariée en général. Mais vous faites un peu de tout, hein. Vous vous adaptez au marché américain, émirati, russe. Quelle est la différence entre ces marchés quand vous dites que vous vous adaptez?
Il y a une grande différence. Quand on crée une collection, par exemple, on va parler que du Maroc en premier lieu. Mm-hmm. Quand on crée une collection pour, on va dire, la région de Meknès Fès, ça n'a rien à voir avec la région de Rabat, ça n'a rien à voir avec le Nord. Et, par exemple, si on crée une collection pour une clientèle parisienne, il faut savoir que l'être humain, il est baigné dans son environnement. Donc il regarde des couleurs, il est attiré, il est inspiré aussi. Donc il faut lui apporter un caftan qui l'inspire, qui est adapté à les choses qu'il voit de tous les jours. Et aussi en termes de matière, par exemple, quand on crée une collection pour les Émirats, il fait chaud, donc il faut que les matières suivent, qu'elles soient respirantes. Et même la culture là-bas, par exemple, il n'aime pas les caftans lourds. Ils aiment la légèreté, mais avec une grande qualité de travail.
Contrairement au Caracou algérien.
Il y a beaucoup. On entend aussi parler des caftans sertis de pierres précieuses. Je sais qu'il y a quelques clientes qui font cette demande. Est-ce que, par exemple, vous faites ça?
Vous savez, pour moi, c'est impossible d'avoir un stock de pierres précieuses. Ça coûte extrêmement cher. C'est rare.
Vous avez les pavés parisiens aussi qui sont pas mal.
Ils sont partout d'ailleurs. Voilà.
Mais c'est des demandes qui ne sont pas que nous on reçoit pas chaque jour. Par exemple, il y a une cliente qui vient, qu'elle a déjà ses pierres et nous on lui adapte ses pierres pour son caftan. Elle va partir chez la joaillerie pour lui faire pour sa parure, par exemple.
Donc, mais ça existe en tout cas.
Oui, ça existe. Oui.
Ça existe. Oui, il y a des femmes qui font ça. Et il y a des créateurs aussi qui clôturent leur défilé de mode avec des pièces, des masterpieces. Par exemple, avec des pierres. Par exemple, là, la semaine prochaine, on va recevoir
le créateur Hani El-Bihiri, qui est un créateur égyptien. Oui. Et bon, il fait pas de caftan, il fait des robes du soir. Et là, il a fait une robe de mariée sertie de diamants qui coûte 1 million, qui lui a coûté 1 million d'euros. D'ailleurs, elle a été portée par la chanteuse libanaise Nicole Saba.
Si c'est pour divorcer 2 mois après, c'est chaud quand même. Hein.
Donc, vous pensez quoi de, par exemple, des créateurs qui mettent un petit peu le paquet pour clôturer leurs événements. Est-ce que c'est un coup de pub? Est-ce que c'est ça vaut le coup? C'est pour vous comment?
Ça vaut le coup, oui, bien sûr, ça vaut le coup. Mais bon, après, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire quand on crée une pièce à 1 million d'euros, qu'est-ce qu'elle va me rapporter après?
Ouais.
C'est intéressant parce que ça va rapporter. Même si cette pièce, il va la laisser, mais ça va lui faire il va lui faire un plus pour toute sa collection.
On conclut cet entretien dans un instant sur France Maghreb 2 avec Anna Gazar-Boikaz dans les rendez-vous d'Anna et son invité, c'est un designer marocain, pour nous présenter les caftans marocains en direct sur France Maghreb 2. À tout de suite. Le grand forum avec en plein cœur des rendez-vous d'Anna sur France Maghreb 2, Anna Gazar-Boikaz et son invité, designer marocain, pour nous présenter les caftans du Maroc. Pour une dernière question et avant notre petit portrait chinois que j'aime beaucoup.
Pour te faire plaisir, le portrait chinois.
Absolument.
Monsieur Marani, on a remarqué que le caftan s'est tellement modernisé que on le voit à les jeunes filles le mettent, les femmes le mettent avec des jeans.
Ça c'est le Moroccan touch.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en parler? D'accord.
C'est
Moroccan touch, hein. Oui, Moroccan touch. Vous venez m'apprendre quelque chose.
Oui, voilà. Ce n'est pas nouveau. C'est des bombers, des vestes, même des t-shirts avec un travail marocain.
Ah.
Et là, ça fait fureur maintenant. Il y en a beaucoup de créateurs qui s'y mettent.
Oui, j'ai vu beaucoup de femmes porter ça et j'ai trouvé ça magnifique.
C'est facile à porter. Mmh. C'est facile à transporter. À nettoyer tout. C'est facile, pas comme un caftan. Et c'est à la portée de tout le monde.
C'est magnifique, franchement, voilà. C'est magnifique. Vous avez bien fait d'innover dans ça. Hein. Mais où est-ce qu'on peut trouver ça, par exemple? C'est dans les boutiques de prêt-à-porter ou
C'est votre deuxième question. Il n'y a pas une présence à l'international des créateurs marocains.
Par exemple, au Maroc, on retrouve ça dans les boutiques.
Même Internet, il n'y en a pas. Même sur Internet.
Ou c'est du sur-mesure comme
Généralement, c'est des petits ateliers. Où il faut se déplacer. Certes qu'il y a des grands créateurs qui font ça, mais après, il faut se déplacer au Maroc.
D'accord.
L'occasion d'y aller,
c'est sympa. Il faut absolument aller au Maroc. Hein.
Voilà. C'est pas désagréable d'aller au Maroc, au contraire.
Ah bah oui.
Non, au contraire, hein, vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup.
Un petit coup de pub pour le Maroc. Alors, passons au portrait chinois, Christophe.
C'est parti, je balance. Allez, on y va.
Alors, monsieur Marani, si vous étiez un tissu, vous serez...
J'adore la soie, moi.
La soie. Si vous étiez une couleur, vous serez...
J'adore le blanc.
Si vous étiez un objet de couture, hein. Un objet de couture.
Ah, vous voulez dire un ciseau?
Un ciseau. Si vous étiez un vêtement, vous serez...
Moi, j'aime m'habiller avec des vêtements plus ou moins légères. J'aime pas être...
Une tunique peut-être? Une abeille?
Non, mais moi je suis tout le temps en jean, polo, t-shirt.
Alors si vous étiez un pays, vous serez lequel?
Bah mon pays, le Maroc.
Si vous étiez un plat?
Avec le couscous.
Lequel?
Marocain, bien sûr, on va dire.
Ah, c'est un délice.
Si vous étiez une voiture, vous serez?
Moi j'adore les Allemandes et surtout les Mercedes.
Ah. Et si vous étiez une chanson, vous serez
Très bien.
Ça, j'ai oublié.
Sla, tout slam, ala, la sola.
Maître Gibbs. Ça paie comme jamais. Voilà, tiens.
Ça paie comme jamais.
Et voilà. Si vous étiez exactement, elle est magnifique celle-là. Si vous étiez un acteur, vous serez qui?
Un acteur arabe?
Donc, celui que vous voulez.
Et comme c'est bête, mais comme acteur arabe, j'aime beaucoup Adil Imam.
Ah, bah oui, moi aussi je l'aime beaucoup, Adel Imam.
J'ai une question piège. Si vous étiez une radio.
France Maghreb.
Merci, merci beaucoup. Bravo.
On vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. D'Anna.
Alors ma chère Anna, la semaine prochaine on va changer complètement d'univers je crois.
Ah, la semaine prochaine on sera avec le chanteur d'origine tunisienne,
oui.
Al Kif.
Ah oui. À découvrir donc la semaine prochaine pour les rendez-vous d'Anna que vous pouvez retrouver sur la page Christophe Le Grand Forum en vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup en tout cas Anna. Merci.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous.
À très vite. On va changer de plateau, messieurs, dames, dans un instant, puisqu'on va changer de registre, on va parler politique. Vous savez que c'est les municipales 2020 qui approchent à grands pas les 15 et 22 mars prochains. Ainsi, les électeurs et électrices choisiront un nouveau maire ou reconduire le maire actuel. On va aller et filer du côté de Argenteuil dans un instant. Puisque notre candidat d'Argenteuil sera avec nous dans quelques instants, Omar Snaouti, qui entre à l'instant même dans les studios et qui va évidemment passer son entretien d'admission. C'est comme ça qu'on a appelé ça. T'aimes bien Céline, entretien d'admission, ça te va?
Ouais, c'est
bien. Bon, oui, voilà.
J'ai été recalé plusieurs fois, ça fait plaisir.
Ah bah on va voir si tu vas être recalé ou pas, hein, mon cher Omar. Sois le bienvenu. Voilà.
Merci.
Changement
à
de plateau en direct, c'est magnifique. Dans cette émission, on parle de tout. On parlait de caftan marocain il y a quelques instants, mon cher Omar. Et alors, on va passer à tout à fait autre chose, puisque voici donc venir donc cet entretien donc sur France Maghreb 2, qui est tous les jours durant toute la campagne évidemment municipale. C'est parti. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. Invité donc aujourd'hui, monsieur Omar Snaouti, que tous les militants connaissent forcément. Donc Céline, tu connais Omar Snaouti?
Bah oui, si t'as déjà fait une manif, t'as forcément vu Omar.
Voilà.
Une manif, que ce soit dans l'antiracisme ou autre.
Alors Omar Snaouti, bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Première question toute simple, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que vous pouvez vous présenter, on va se voyer, à nos auditrices et auditeurs et surtout à celles et ceux qui habitent Argenteuil et qui ne vous connaîtraient pas encore, mon cher Omar Snaouti. Vous avez 45 ans je crois.
Non, c'est non. Les mêmes chiffres mais à l'envers. Mais c'est pas mal comme entrée en matière.
Bon ça va, je vous ai rajeuni, tout va bien.
Après, il y a différentes façons de se présenter. Moi, j'aime dire, surtout dans la période que je suis le fils de Slaouti Lounas et de Slifi Amila.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire de ces immigrés qui sont nés dans les années 50, 60 et qui ont trimé pas mal de par leur vécu. Et voilà, on est 7, 8 frères et sœurs. Je suis l'un des 8 en question et on est quelques-uns à être militants et à embrasser pas mal de causes sociales et antiracistes parce que on n'arrive pas dans le militantisme complètement par hasard. Donc voilà, c'est une façon de me situer. Et on est plusieurs, bien sûr, dans cette campagne autour des municipales.
Alors, est-ce que finalement, c'est pas une suite logique de passer du militantisme, parce que vous êtes un militant reconnu et connu, que d'aller maintenant, j'allais dire, être du côté du concret, c'est-à-dire essayer aussi de faire changer les choses en occupant un poste tel que maire d'Argenteuil, qui est une grande ville, rappelons-le quand même.
Ouais, c'est la troisième ville de France, mais en vérité, le concret, il se passe dans la rue. En réalité, le rapport de force, c'est là que ça se joue. Et on le voit encore aujourd'hui. Je reviens de la manif il y a un instant, place d'Italie. Et si les choses bougent à un moment donné, c'est parce que la rue a décidé de bouger. Et le vrai concret, en réalité, il est là. Et justement, ce qu'on veut démontrer dans le cadre de ces municipales, c'est faire le lien entre le militantisme de tous les jours, parfois même dans l'ombre, loin des lumières, et y compris à l'échelle de la ville, et puis le fait d'embrasser des campagnes électorales pour faire entendre des choses en même temps très concrètes, vous avez raison, des choses très pratiques aussi parce qu'on a envie de faire bouger les lignes.
Omar Snaouti, je précise aux auditrices, auditeurs que vous êtes dans la vie professeur de physique chimie.
Ouais, c'est ça.
Argenteuil d'ailleurs, chez vous.
Ouais, c'est ça, dans un lycée qui est enclavé sur la dalle d'Argenteuil. La dalle d'Argenteuil, c'est là où Sarko a balancé
Le fameux. Le fameux. Oui, sur la dalle d'Argenteuil.
Ouais, la dalle, c'était racaille, si vous voulez, il a beaucoup de mots dans son dictionnaire. Et voilà, donc on est assez fiers de vivre dans cette ville-là, en réalité, qui est une très très belle ville, avec un vrai réseau de solidarité associatif, c'est juste une dinguerie. Avec en même temps une histoire qui est pas rien, avec des vrais acquis, parce que ça faisait partie de ce qu'on appelait la banlieue rouge. On est quelques centaines, quelques milliers à avoir été des enfants des colonies de vacances. Voilà, nous on a été biberonnés à tout ça, et c'est une ville qu'on aime, en vérité.
Vous allez mener la liste Argenteuil, commune citoyenne, égalité. donc à Argenteuil. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi à peut-être mettre autour de vous, j'allais dire, réunir une partie de la gauche ?
En réalité, cette histoire-là, elle est assez belle aussi. C'est-à-dire que, en fait, je vous l'ai dit, on vient des mouvements sociaux. C'est pas pour rien que pour nous, la mobilisation qui se passe actuellement contre la réforme des retraites à points est fondamentale. Et on fait le lien entre le national et le local. Alors, on entend bien qu'au municipal, c'est pas là que les choses se règlent. Mais en réalité, il n'y a pas de dichotomie, de séparation nette entre ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe à l'échelon local. Je vais revenir dans un instant. Mmh. Et donc, ceux et celles qui se retrouvent dans cette campagne-là, ce sont des militants et des militantes qui mènent des batailles régulièrement, y compris contre les violences policières. On est un paquet dans notre mouvement à s'y retrouver. Et les violences policières, pardon du peu, c'est particulièrement d'actualité.
Absolument.
On le voit parce que, voilà, on assiste à des drames, à des meurtres, en réalité. Il faut appeler ce, qui, voilà, ce que l'on voit par des termes qui sont adaptés à la situation. Et en même temps, on dira d'ailleurs au détour de ça, ces drames-là ont commencé dans les quartiers populaires il y a bien longtemps. Ils vont se poursuivre même y compris à la, après la réforme qui passera retraites. Ou qui ne passera pas. Et donc, faut être extrêmement vigilant. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, ça veut dire que ceux et celles qui se mobilisent se retrouvent dans le cadre de cette campagne-là. Donc, ce sont d'abord des militants de terrain, associatifs, beaucoup. D'ailleurs, c'est une liste citoyenne au départ qui est soutenue, pas présentée, soutenue après par un arc de force de politique qui est très, très large. Il y a la France Insoumise, il y a le Parti Communiste, ouais. Il y a le NPA, il y a Génération, c'est-à-dire le groupe qui a quitté Benoît.
C'est la gauche du PS, quoi.
Qui a quitté le PS avec Benoît Hamon. Et puis, il y a la gauche démocratique et sociale. Voilà, c'est une vraie gauche,
soutenue,
sur
hein,
des valeurs, soutenue, pas présentée.
Voilà. Il n'y a pas de logo sur votre...
Si, si, il y aura des logos, d'accord. Mais ce sera soutenu par ces logos-là. C'est-à-dire que nous, on ne s'en laisse pas compter, c'est une vraie liste citoyenne. Et il y a vraiment l'idée de transformer les choses, y compris sur la manière de faire de la politique, avec en même temps, et c'est une bonne nouvelle, un vrai programme. C'est-à-dire qu'on avance des questions très pratiques, oui. Auxquelles on apporte des réponses, on espère, très pratiques aussi. Et puis... entremêlé de réalisme et parfois même d'exigence, voire d'utopie. On va en donner quelques exemples tout à l'heure.
D'ailleurs, premier exemple, avec par exemple, parmi ce que vous proposez, les transports gratuits pour les personnes les plus fragiles. Alors, il faut que vous nous expliquiez un petit peu ce que ça veut dire, ça, les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire.
Alors déjà, les transports gratuits, il faut savoir que ça dépend évidemment de la région.
Ça dépend pas de vous, ça dépend de la région, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça, ça dépend de la région Île-de-France. En même temps, nous, ce qu'on espère, c'est avec un ensemble de communes, c'est mettre la pression sur toutes les instances au-delà de l'échelon municipal. Donc concrètement, taper à la porte de la région Île-de-France
ouais.
Pour la gratuité des transports.
Faire pression auprès
oui,
de
faire pression, la région. Faire pression, exiger, parce que en réalité, c'est à la fois une exigence sociale, parce ouais. Que le transport coûte super cher. Mm-hmm. Faire Argenteuil, Paris, ça coûte cher, et y compris quand on cherche un taf, un stage, etc. Mmh. Par ailleurs, c'est une mesure écologique parce que les transports en commun, eh bien, ça veut dire un bilan carbone qui est bien meilleur que ce qu'il est actuellement.
Ouais.
Et puis, de ce point de vue-là, on peut pas faire semblant. On sait que c'est pas en plus quelque chose qui va coûter une dinguerie. D'autres villes l'ont fait, l'ont exécuté ailleurs.
Au Luxembourg,
et c'est plutôt,
notamment.
Voilà, et ça marche plutôt bien. Donc, c'est une mesure qu'on va mettre en avant, mais c'est évidemment pas la seule, c'est non plus pas la centrale dans cette affaire-là. Il y a d'autres mesures qui nous tiennent à cœur, mais de manière très générale, ce sont les services publics. Faire en sorte que les services publics puissent exister à l'échelle d'une ville de 110 000 habitants, 113 000 précisément,
ouais.
Dans laquelle 23% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est quand même pas rien. Et les services publics, c'est la meilleure façon de redistribuer les richesses. Or, service public, ça veut dire quoi ? Des écoles qui fonctionnent le mieux possible. Des écoles où il pleut pas à l'intérieur. Et ça, c'est de
ouais,
l'ordre
c'est quand
du
même
ressort.
Mieux, ouais.
Du ressort de la municipalité, par exemple. Mais aussi, les centres de soins. On a deux centres de soins. Et je vous assure, il y a plus d'un an d'attente pour voir un ophtalmo parce qu'il n'y a pas de plateau ophtalmologique.
Ça, c'est un
etc.
problème qu'on retrouve quasiment partout, hein. Maintenant, le problème de,
voilà.
Des médecins et des
oui, quoi. Alors, il y a
les difficultés d'obtenir
voilà,
un
tout à fait.
Les
comment feriez-vous, justement, pour les attirer chez vous, à Argenteuil,
alors,
Marcel,
avant d'attirer, déjà, il faut faire en sorte que, donc je finis, il y a les centres de santé qui sont très importants. On en a deux, il en faudrait plus et qui fonctionnent bien mieux. Soutenir d'ailleurs les mobilisation à l'hôpital d'Argenteuil parce qu'il y a de quoi mobiliser, il y a de quoi être à leur côté.
Un grand
et
hôpital,
puis faire en sorte, pardon,
un grand hôpital.
Ouais, absolument. Et puis faire en sorte que les crèches aussi soient à la hauteur des besoins. Voilà, ouais. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à placer leur enfant en crèche. Or, quand on veut mener une politique en direction des femmes, notamment de l'égalité, eh bien, il faut que les femmes, les parents, mais évidemment, on sait que ce sont les femmes qui, en dernier ressort, sont amenées à garder les enfants, puissent mettre leurs enfants en crèche. Alors, où est-ce qu'on va chercher le fric, vous disiez, Christophe? D'abord, première chose, comment faire en sorte pour pas qu'il se barre, le fric? On a un problème de ouf à Argenteuil, c'est qu'il y a 100 millions d'euros qui sont partis dans la banque Dexia, que les Argenteuillais ont payé, c'est-à-dire 1600 euros par foyer fiscal, parce que le maire Motron, de droite actuellement, en 2002 a contracté des emprunts toxiques, et puis le maire qui a suivi Doucet, Parti Socialiste, eh bien, au lieu d'attaquer en justice ces emprunts toxiques, et Dexia en particulier pour ne pas payer les intérêts, a fait payer la douloureuse à tous les argenteuillais. 1 600 euros par foyer fiscal, c'est une moyenne, faut bien entendre que c'est une moyenne. Mmh. Autant dire que la première des choses à dire ici, c'est que les fameux experts politiques de droite comme du Parti Socialiste ne sont experts en rien, si ce n'est avoir rempli la poche des banquiers, en l'occurrence Dexia. Alors nous, on va évidemment mener une politique qui va consister à faire en sorte que l'ensemble des recettes, par exemple de la taxe foncière, qui est encore une recette existante, parce que la taxe d'habitation a disparu depuis Macron, on le sait, puisse abonder vers les services publics. Et puis quand il n'y aura pas les moyens, par exemple pour les centres de soins, allez taper à la porte de l'Agence régionale de la santé. Parce que nous, on fera la chose suivante. On partira pas d'une enveloppe pour voir ce qui peut rentrer dedans. On partira des besoins de la population et on ira chercher les moyens financiers là où ils sont pour que justement les argentiers et argentiaises puissent vivre, eh bien, j'ai envie de dire, à égalité de droits et dans une dignité retrouvée.
Omar Slaouti, candidat à Argenteuil, est avec nous aujourd'hui. Vous souhaitez favoriser aussi les commerces en circuit court et le bio. Ah, le bio. Ah, vous êtes tous dans la tendance, dans le move, quoi.
Ouais,
bio.
C'est ça. Aujourd'hui, celui qui dit qu'il est pas bio,
il est
mal barré, en gros. Voilà.
Non, mais donc, pourquoi mettre ça dans le programme, est-ce que c'est vraiment important pour les habitants d'Argenteuil?
Mais je vais vous dire, au-delà du bio, au-delà du bio, comme ça, ça peut être du greenwashing, c'est-à-dire, on repeint la maison en vert, ça fait bien sur une affiche, mais il y a des vraies questions aujourd'hui liées à l'écologie qui sont pas anecdotiques. Les populations, les premières victimes des désastres écologiques, de la malbouffe, entre autres, mais de manière générale, y compris du climat qui se casse la gueule, avec toutes les maladies allergiques, ce sont les populations les plus fragiles. Il se trouve qu'elles existent partout, et notamment Argenteuil, je l'ai dit. Et donc, revoir à la cantine, par exemple.
La cantine, repas bio?
Du bio, mais y compris des repas végétariens.
Mais ça coûte cher, Omar Slaouti, le bio.
Mais écoutez, moi je vous dis quelque chose. Ce qui coûte cher, y compris si on était sur une logique simplement comptable, ce qui coûte cher, ce sont ceux et celles qui tombent malades, justement, de mal vivre avec de la malbouffe, l'obésité, les dents cassées, le fait d'avoir du diabète. Tout ça, ce sont des maladies chroniques dont financièrement les conséquences sont énormes. Mais nous, c'est même pas par ce bout de la lorgnette financière qu'on aborde les choses. C'est simplement par celui du bien-être. C'est-à-dire qu'on met ça en perspective parce que ça nous semble important. Alors voilà, les circuits courts, eh bien, je suis pas persuadé du tout que ce soit beaucoup plus cher que les circuits longs. Je suis pas persuadé que manger bio, manger de qualité, ce soit beaucoup plus cher que de manger, eh bien, du Monsanto qu'on met dans l'assiette des enfants. Concrètement, c'est revoir nos pratiques de manière à ce qu'on puisse vivre correctement dans cette ville de, alors, je le disais, 113 000 habitants, c'est quand même pas rien.
Chose intéressante dans votre programme, Céline, je te laisserai évidemment poser des questions, hein, t'inquiète pas, tu vas pouvoir aussi faire passer l'entretien de Omar Slaouti. Une chose intéressante qu'il y a dans votre programme, et ce qui peut être d'ailleurs le cas de beaucoup de villes en banlieue parisienne, c'est ce fameux espace vert. Comment le conserver et prôner en même temps, c'est ce que vous proposez, la concertation avec les citoyens?
Aujourd'hui, partout, dans toutes les villes, il y a ces maires qui passent et qui veulent laisser leurs traces. C'est juste une dinguerie. On dirait que ils vont crever après-demain et juste ils leur font un grand parc avec leur nom. Il faut que l'architecture, l'urbanisme soit tracé par tous ceux qui sont passés. Et je peux vous dire, chez nous, il y en a beaucoup qui sont passés. Il y a notamment Manuel Valls, pour le coup, lui qui a défoncé toutes les chaussées d'Argenteuil tellement il avait les dents longues. Maintenant, pour revenir à ces
c'est pour ça qu'il s'est barré à Barcelone maintenant.
Ouais, hélas pour
mais
tous
même
les
Barcelonais. Mais même eux ne veulent pas lui.
Même eux ne veulent pas de lui.
Mais oui, mais moi je pense qu'il faut qu'il demande l'asile après pour trouver le lieu.
Où ça?
Faut qu'il trouve le lieu, je démerde.
Argenteuil par exemple, non?
Oui, mais on lui fait confiance.
Pour trouver.
Ouais, pour trouver. Pour revenir sur ce que vous appelez ces grands projets finalement qui consistent à dessiner la ville d'Argenteuil avec des espaces verts, ce sont des grands projets qui doivent nécessairement être discutés avec la population. Ce sont les premiers acteurs, les premières actrices de leur ville. On peut pas simplement dire qu'on défonce, par exemple, parce que c'est l'un des projets qui est porté à la fois par le maire de droite actuellement Motron et par le maire Doucet, anciennement maire, qui consiste à défoncer une grande salle Jean Villard, une grande salle de spectacle avec le parc Héloïse, qui est un lieu quasiment mythique dans la ville d'Argenteuil, pour donner ces emplacements-là à des multiplexes, à des multinationales, à des grands complexes, y compris parfois de la culture, qui vont écraser au passage notre cinéma, qui vont écraser au passage les petites librairies du coin, notamment on pense aux presse-papiers, qui vont écraser au passage les petits commerces. Autrement dit, nous ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas, comment dire, d'opposition, de principe par rapport à des projets relativement conséquents, c'est simplement qu'ils soient décidés collectivement dans un cadre à l'échelle de la ville. Alors ça s'appelle de la démocratie. Certains diraient de la démocratie participative.
Oui.
Nous, on n'aime pas trop le terme parce que concrètement, ça veut dire comment est-ce qu'on le met en musique? Eh bien, ça veut dire le préparer sur des mois avec toute la population en leur donnant tous les éléments, y compris les éléments chiffrés. Voilà. Pour nous, c'est la meilleure façon de faire la politique.
Céline.
Moi, j'ai deux questions parce que je connais Argenteuil que de loin parce que je viens du 94.
L'erreur est humaine.
On fait ce qu'on peut.
Ouais.
Je sais qu'Omar, tu as été présent très longtemps sur les violences policières, tu en parlais, notamment par le collectif Aliziri. Et je sais qu'aujourd'hui, Argenteuil, c'est un maire de droite. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'aspect sécuritaire de la ville? Est-ce que actuellement il y a une police municipale?
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a une police municipale. Elle est surarmée. C'est-à-dire que plus les années avancent, plus elle est armée, c'est un peu l'air du temps. Et puis il y a une démultiplication des caméras de vidéosurveillance, y compris le maire, ils sont gargaris. Je crois qu'il en est aujourd'hui à 185. S'ils pouvaient se les accrocher quelque part sur...
C'est Big Brother en fait.
Sur le veston, ce serait pas mal.
Qu'est-ce que vous allez faire vous, Omar Sauti, justement?
Eh bien déjà, on va discuter collectivement. Parce que l'ensemble de ces questions-là, programmatiques, elles sont discutées au sein de ce groupe-là, associatif, militant associatif, avec l'ensemble des forces politiques dont j'ai parlé. Donc on se réunit régulièrement, et puis les citoyens, pour voir qu'est-ce qu'on mettra en perspective, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on met en débat. Eh bien, il va de soi que sur les caméras de vidéosurveillance, déjà sans même qu'on dise quoi que ce soit, tout le monde sait que ça ne sert strictement à rien, mais tout le monde le sait. Genre, ça, c'est totalement démago. Ça permet éventuellement de se faire élire quand on est un peu facho, pardon.
Et ça a un coût.
Et par ailleurs, c'est un coût. Bien sûr, c'est un coût financier. Donc déjà, ça va être assez facile de faire en sorte que ces caméras de vidéosurveillance ripent un peu du paysage. Par contre, on serait d'avis de mettre des caméras de vidéosurveillance dans toutes les salles municipales où on va discuter des contrats avec l'ensemble des entreprises, avec l'ensemble des marchés financiers, l'ensemble des grands débats sur des grands projets. Bref, faire en sorte que la municipalité, elle, soit particulièrement transparente pour les citoyens et les citoyennes. Je le dis parce que les 100 millions d'euros quand même qu'on a payé tous et toutes, c'est quand même un coût énorme dans une ville où quand même il y a pas mal de pauvreté et il y a des services publics qui auraient besoin d'être rénovés. Donc ça, c'est par rapport à ça. Et puis après, par rapport à la police, il y a des tensions de ouf. Je le dis très calmement. On a des contrôles très musclés dans la période d'Argenteuil. On ne sait pas à quoi c'est dû. C'est peut-être dû à l'ère du temps au niveau national. Mmh. C'est peut-être une sorte de microclimat, d'écosystème un peu bizarre sur Argenteuil, mais on sent que ça va partir en vrille.
Une vraie tension.
Faudra pas s'étonner si il y a prochainement un blessé très grave, voire même un décès, avec des révoltes qui vont les accompagner. Je le dis parce que...
Vous prévenez aujourd'hui, là.
Pardon?
Là, vous êtes un petit peu...
Ah, mais nous, on est extrêmement tendus. On a des retours de partout.
C'est pas propre à Argenteuil, hein,
mais... C'est pas propre à Argenteuil. On a des retours de partout, des jeunes de toutes les cités qui n'en peuvent plus, qui nous disent, mais pas que des jeunes, des parents aussi, qui insistent. Pardon?
Une sorte de harcèlement?
De harcèlement continu et extrêmement violent.
Ben, le rôle du maire est important. Omar Sauti, le rôle du maire, justement, dans une situation tendue, comme vous l'avez décrivé à Argenteuil, mais aussi dans pas mal de villes, de banlieue. Aujourd'hui, il a un rôle important, le maire, c'est d'essayer d'aller d'être le médiateur, d'essayer de calmer
apaisement,
un peu les choses.
D'apaisement.
Est-ce que vous serez de cela, monsieur Slaoussi?
Non, moi, je suis pas sûr que les rôles, enfin, tels que les maires actuels existent dans leur mandat, le vivent de manière à apaiser les choses.
Et vous, le maire d'Argenteuil, vous ferez quoi?
Déjà, on va faire un truc qui est très simple. Alors, on dit maire Slaoussi, maire d'Argenteuil, c'est joli sur l'affiche, mais en vérité, on est une équipe, d'accord? Donc, c'est-à-dire que nous, on est contre, le fait de mettre en avant une personne ou un groupe de personnes. Mais ceci dit, je réponds à votre question. Nous, ce qu'on fera, si nous sommes aux responsabilités, c'est faire en sorte, par exemple, qu'il puisse y avoir à Argenteuil des expérimentations contre le contrôle au faciès. C'est-à-dire qu'on en finisse avec ce harcèlement qui a été dénoncé, y compris par le Défenseur des droits à plusieurs reprises, mais par toutes les associations des droits de l'homme. On le sait que la police contrôle au faciès. Et quand je dis contrôle au faciès, ça veut dire un contrôle éminemment raciste. C'est pas possible. En vérité, c'est plus possible. Donc voilà, par exemple, le genre d'expérimentation qu'on pourrait mettre.
Oui, mais on avait tenté le stop contrôle au faciès.
C'est ça. En même temps, le stop contrôle au faciès a réussi à mettre sur le banc des accusés l'État qui a été justement accusé, eh bien, de contrôle au faciès. Ils ont fait un recours, ils ont été réaccusés de nouveau. C'était Valls qui était à l'époque en responsabilité, qui a proposé le recours justement. Voilà. Donc voilà un exemple par rapport à la police qui nous semble très important. Et puis après, il y aura, si on est élu, encore une fois, eh bien, un observatoire du respect des dignités des uns et des autres contre toutes les formes de discrimination, y compris faites aux femmes, ça va de soi, dans un contexte où les violences faites aux femmes sont extrêmement violentes. Donc, en donnant des moyens, y compris à ce qu'on appelle la maison des femmes, pour que ces femmes puissent retrouver un endroit avec leurs enfants ou sans leurs enfants, selon les situations, où elles puissent se reconstruire et puis évidemment attaquer en justice et retrouver leur dignité. Mais c'est vrai aussi pour toutes les atteintes à la dignité qui sont faites à l'endroit de ceux et celles qui seraient victimes de racisme institutionnel, comme ça peut être par exemple à cause de la police.
Alors ça c'est très bien parce que c'était l'objet de ma deuxième question. Il y a eu des polémiques sur Argenteuil par rapport au maire actuel et qui a été accusé d'islamophobie, notamment pour une affaire de femme voilée et d'un mariage. C'est ça ce qui s'était passé, ouais, il avait refusé, enfin c'est pas, peut-être pas lui, c'était peut-être un élu ou une élue qui avait refusé de marier une femme qui portait le voile dans les locaux de la mairie. Il y avait eu toute une polémique par rapport à ça. Dans une ville aussi diverse qu'Argenteuil.
Oui, avec des musulmans, vous pouvez le dire.
Ouais, voilà, voilà, clairement. Enfin, ça peut paraître assez, enfin, c'était assez choquant, très, très choquant, mais surprenant, dirais-je, oui, par rapport à la nature.
Oui, c'est ouf, et c'est un message, un deuxième message. Enfin, je sais pas, je suis peut-être au dixième message en même temps. Je dois les avoir saoulés, mais. En tout cas, un message très important, c'est qu'évidemment, on sera vigilant contre toutes les formes de discrimination, je l'ai dit. Mais par ailleurs, j'en profite pour dire autre chose. On a régulièrement à la mairie des trucs de dingue, mais c'est pas propre à Argenteuil, des postures de clientélisme à deux balles. C'est-à-dire qu'on a des maires de droite ou du Parti Socialiste, voire d'ailleurs, parfois même aussi, eh bien, qui, au moment des campagnes des municipales, eh bien, vont chercher quelques Arabes, quelques Noirs, quelques musulmans, quelques musulmanes, quelques roms parfois, enfin, c'est beaucoup plus rare, voilà, pour faire une petite affiche Benetton, mettre sur leurs affiches, ouais. Et après le reste de l'année par ailleurs, et y compris quand ils ont des responsabilités nationales, et c'est le cas dans ma ville, puisque Doucet a été député et proche de Manuel Valls, il a porté les valises tout de même et proche du printemps républicain, de fait, même si je le sais, je le connais, il partage pas l'ensemble du logiciel, mais quand même il a jamais renié son parcours avec Manuel Valls et il a fait partie des frondeurs de droite. De l'autre côté, on a Montron qui a été député, qui a quand même fait la chasse aux Roms. Et si vous vous rappelez, c'est pas anecdotique, mais pour moi, pour nous, c'est pas une anecdote, c'est très important. Il a distillé ce qu'on appelle le malodore, c'est-à-dire un répulsif anti-SDF à différents endroits de la ville il y a quelques années.
C'est sale.
Donc, c'est pour vous dire à quel point on a des fous furieux, ouais, qui pourtant, en période municipale, n'hésitent pas à aller faire la danse du ventre, y compris parfois dans les mosquées, ouais, pour essayer de gratter quelques voix. Donc, nous, on le dit à tous les auditeurs et auditrices, oui, notamment d'Argenteuil,
oui,
lâchez l'affaire,
oui.
On nous prend pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire qu'on a une grille, d'abord on n'est pas à vendre, aucune religion n'est à vendre et acheter, aucun culte, la transcendance verticale n'a rien à voir avec l'horizontalité politique, et évidemment dans cette affaire-là ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant et ne pas tomber dans ces postures clientélistes d'où qu'elles viennent, et être extrêmement vigilant. Et je le dis, le clientélisme ça fonctionne aussi parce qu'on a beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté et qui pour un appartement, et bien aussi parfois pour un petit travail, et bien sont prêts à coller des affiches.
Omar Slaouti, pour finir, parce que le temps passe très vite, vous avez une minute pour vous adresser aux habitants d'Argenteuil qui vous écoutent aujourd'hui sur France Maghreb 2. Pourquoi il faut voter Omar Slaouti le 15 mars prochain?
Alors d'abord, pourquoi il faut voter Argenteuil tous ensemble, c'est-à-dire une liste soutenue par tout cet arc de gauche? C'est parce qu'on a la prétention et l'ambition d'incarner un renouveau politique qui met à l'ordre du jour le partage des richesses qui passera par des services publics de qualité. C'est vrai au niveau de l'école, c'est vrai au niveau de la santé, et c'est vrai au niveau des crèches, et dans l'ensemble des autres services publics, dont la mairie qui accueille bien sûr beaucoup d'usagers. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, et c'est transversal à tout ça, c'est que la question écologique, c'est pas un surplus, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pas un petit bout d'affiche. Ces questions écologiques, elles sont importantes pour le bien-être, et elles seront développées évidemment dans l'ensemble de ce que je viens d'évoquer, aussi bien à l'école que dans le cadre de la santé, y compris en termes de sensibilisation dès la petite enfance. Donc, il y a toutes ces raisons-là, et la dernière, si j'en avais une dernière à donner, c'est que nous, on n'a jamais mis la main dans le pot de confiture. Voilà, pour dire très clairement les choses. Nous, on n'a pas 100 millions d'euros d'impôts, d'impôts malsains à avoir fait embarquer pour tous ceux qui sont qui vivent à la ville d'Argenteuil. Et donc, de ce point de vue-là, eh ben, nous sommes plutôt clean, nous sommes plutôt hornin. On vous dit bon courage à tous.
Bah, bon courage à vous.
Bon rendez-vous dans les prochaines luttes.
France Maghreb 2.
Merci d'être avec nous en direct avec Céline Bourri aujourd'hui. Quel entretien d'admission, hein. Ouais, avoir Slaouti quand même. Si les maires, ça va mal, c'est Argenteuil, hein. Attention, hein. On fait un petit tour du côté de la manifestation en cours à Paris avec Philippe Boyacki, notre reporter, notre kamikaze en direct de la manif. Bon Philippe, comment ça va?
Ça va, salam alaikum, écoutez, ça se passe très bien. Au début, tout à l'heure, quand on s'est eu au téléphone à 16h30, il y avait un calme relatif et puis un mouvement un petit peu bizarre où les Antifa ont fait machine arrière, sont revenus en arrière, rejoindre
le groupe principal. Vous savez que les manifestations, en 2016, vous avez les Gilets jaunes, puis les Antifa, puis le CNT, puis après, les élections officielles, la CGT et FO. Mais là, la CGT s'en trouvait même en plein lieu, et encore beaucoup de monde. Et on finit par le FSU. Et on est dans un calme total, pas de débarquement. Il y a eu quelques petites accroches vers boulevard de l'hôpital, mais tout est rentré dans l'ordre. Pas de problème, comment tu vas?
Ça va, ça va.
Merci beaucoup. Donc France Magazine 2, un accueil chaleureux, les gens nous reconnaissent. Nous saluons, merci beaucoup. Nous allions avoir le live sur le Grand Forum, ainsi que les différents interviews de responsables syndicaux et de citoyens lambda. Une manifestation impressionnante parce que au début je pensais vraiment qu'il y avait moins de monde et j'ai l'impression qu'il y a autant de monde que samedi dernier. Là on arrive vraiment à la fin et on est juste devant la Pitié-Salpêtrière, un calme incroyable et des forces de l'ordre qui déposent le casque. Enfin, qui enlève le casque, pardon.
Très bien.
Passe, hein, pareil.
Ouais.
Et voilà, ça se finit bien, ça se finit gentiment. On va quand même rester jusqu'au bout.
Bah oui, quand même.
Que tout le monde va bien rentrer.
Bah oui, quand même.
Et puis,
c'est important.
Suivez-nous encore sur le live.
Merci beaucoup, mon Philippe Boyaki. Rendez-vous sur le live, Christophe Le Grand Forum, sur la page Christophe Le Grand Forum. Poursuivre mon Philippe Boyaki. Alors tiens, en guise de zapping très rapide, j'en avais sélectionné pas mal. Il y avait notamment Yvan Le Bolloc qui a quand même été très bon en matière de recadrage envers des journalistes. Mais alors, je vous ai gardé la crème de la crème. Céline Pina, vous connaissez Céline Pina, Céline Bory.
Bien sûr.
Voilà. Bah on écoutez, elle était en débat avec Zemmour. Et on en a profité pour glisser une petite quenelle bien de chez elle, à savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était pédophile.
Regardez comme moi je suis laïque, regardez comme je n'ai pas peur des religions, mais en même temps je m'en prends à la religion qui ne me fera aucun mal parce que des assassinats par des chrétiens en France, oui. Au nom du respect de Jésus, on n'en a plus
oui,
et
ça,
on n'en a pas.
Oui, ça c'est au moins depuis 5 siècles.
Après, j'allais dire... Il faut pas non plus monter sur ses grands chevaux. Si on réclame la liberté d'expression, il faut admettre que c'est de mauvais goût, que c'est peut-être ridicule. Peut-être juste demander à ce jeune homme en lui disant, mais si vous voulez être très transgressif, eh ben allez-y, expliquez donc que Mahomet ayant épousé une petite fille de 6 ans est pédophile et on va voir si vous allez oser le faire. Mais en même temps, en toute sincérité, je n'irai pas demander réellement à ce jeune homme de le faire parce que je suis pas sûre qu'il pourrait pas le payer de sa vie et que j'ai pas envie de voir des gens mourir.
Voilà, c'était le petit cadeau pour la fin. Hein. Voilà, Céline Pina en débat sur CNews.
Céline Pina a fait du Céline Pina, c'est-à-dire qu'elle a toujours.
La pignasse.
Elle a toujours critiqué l'islam.
Ouais.
Donc,
son fond de commerce.
C'est son fond de commerce, c'est comme ça qu'on l'a connue. Donc elle se revendique comme laïque. Mais à chaque fois, derrière cette laïcité, elle s'en sert pour attaquer l'islam et uniquement l'islam.
Merci beaucoup, Céline. Et à très bientôt.
Demain,
rendez-vous. On va parler des Ouïghours demain. Il y a un gros rassemblement ce samedi pour l'heure. Et dans un instant, DJ Nabil, pour l'heure, le journal. L'actualité de ce jeudi soir. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Unis pour faire plier le gouvernement. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites aux quatre coins de la France. Les syndicats continuent de demander l'abandon du texte malgré la détermination de l'exécutif. Le placement préféré des Français a du plomb dans l'aile. Le taux du livret A va une nouvelle fois baisser le 1er février. On verra s'il est encore intéressant d'y mettre de l'argent. Et puis, les nappes phréatiques reprennent des couleurs. Elles retrouvent des niveaux proches de la normale. Mais vous le verrez, des disparités existent entre régions. Une mobilisation en baisse à Paris pour la 6e grande journée de manifestation contre la réforme des retraites. 250 000 personnes ont défilé dans les rues parisiennes cet après-midi, selon la CGT, contre 370 000 la semaine dernière. À Toulouse, la préfecture estime à 7 000 le nombre de manifestants, 80 000 pour la CGT. Des manifestants qui demandent toujours l'abandon pur et simple du système par points du gouvernement. Un système qui, pour la CGT, est injuste, comme l'explique le secrétaire général Philippe Martinez.
Ce système, c'est le contraire de la solidarité. Il va individualiser les retraites. C'est le système de retraite pour les premiers de cordée. Donc ce qu'il faut, c'est réinjecter de l'argent par le biais de cotisations sociales, celles des grandes entreprises par exemple, avec plus de personnes au boulot, parce qu'on a besoin que le financement de la retraite, eh bien, il soit plus conséquent. Effectivement, il y a plus de retraités. Alors, plutôt que de se partager un gâteau qui a la même taille, eh bien, il faut augmenter la taille du gâteau pour que les parts soient plus importantes pour tout le monde.
Et à la SNCF, on vit déjà le 43e jour de grève consécutif, un mouvement qui va coûter cher à la compagnie ferroviaire, très cher même. Une facture qui avoisinera le milliard d'euros, selon le président du groupe public, Jean-Pierre Farandou. Un plan d'économie est d'ores et déjà prévu pour rétablir les comptes. Demain, le trafic TGV sera quasi normal, celui des TER va aussi nettement s'améliorer. Elle décide de s'y prendre tôt. Marine Le Pen annonce son intention d'être candidate à la prochaine élection présidentielle. Déclaration de la présidente du Rassemblement national lors de ses vœux à la presse. La candidature de Marine Le Pen devra encore être validée par le congrès du parti. Christophe Rugia, mis en examen, le réalisateur est accusé d'agression sexuelle sur l'actrice Adèle Haenel lors d'un tournage alors qu'elle était encore mineure. Il a été placé sous contrôle judiciaire et interdiction d'entrer en contact avec la comédienne. Une confrontation entre Christophe Rugia et Adèle Haenel a été organisée hier, durant laquelle chacun est resté sur ses positions. Vous en avez peut-être un à la banque, comme 55 millions de Français, un livret A. Au 1er février, il vous rapportera moins, avec un taux qui va passer de 0,75 à 0,5%. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, justifie cette décision par le besoin de financement de logements sociaux. Alors est-il toujours intéressant de placer son argent sur un livret A? En tout cas, ce serait bête de s'en priver, selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.
Avec le livret A, on n'a jamais fait énormément fortune. On a même souvent perdu de l'argent. C'était le cas dans les années 80 avec un rendement réel après inflation négatif. Mais il vaut mieux laisser son argent sur le livret A que de le laisser dormir sur son compte courant où là, ça ne rapporte rien. Et ces dernières années, les Français ont laissé beaucoup d'argent sur leur compte courant. Il y a plus de 400 milliards d'euros sur les comptes courants quand il y en avait 200 milliards en 2009. Donc je dirais que, évidemment, il faut essayer de trouver d'autres placements plus rémunérateurs. Au pire, il vaut mieux le laisser là que de rien faire.
Et en parallèle, Bruno Le Maire souhaite faciliter l'accès au livret d'épargne populaire, le LEP. Le LEP rapporte plus que le livret A. Pourtant, il reste peu utilisé. 40% des Français y sont éligibles. Après la sécheresse de l'été dernier, du début de l'automne, la situation s'est nettement améliorée pour les seuls Français. C'est ce qu'annonce le Bureau de recherche géologique et minière. Les nappes phréatiques françaises ont retrouvé des niveaux proches de la normale avec des disparités en fonction des régions. Alors comment expliquer que la situation soit différente d'une région à l'autre ? Réponse avec Violaine Beau, hydrogéologue.
Déjà, le niveau en sortie de l'été, il y avait certaines nappes qui étaient vraiment très très basses. C'est ce qu'on retrouve sur le couloir du Rhône et de la Saône, où là, même si les niveaux augmentent, ils sont toujours en dessous de la moyenne. Il faudra encore qu'il pleuve ces prochains mois pour qu'ils arrivent à retrouver des niveaux moyens. Et puis, vous avez également des territoires où il a beaucoup plus plu qu'ailleurs. Par exemple, en Adour-Garonne, où là, les niveaux sont vraiment très haut. Et puis au contraire, vous avez la nappe du sud d'Alsace où là, on a eu un petit déficit pluviométrique en décembre et donc les niveaux sont encore bas.
Et des propos recueillis par Boris Karlamov. Encore une victoire pour Martin Fourcade. Le biathlète a remporté le sprint en Allemagne, sa troisième victoire consécutive en Coupe du Monde. Le quintuple champion olympique devance un autre Français, Quentin Fillon-Maillet. Et puis le foot avec un match des 16e de finale de la Coupe de France ce soir. Pau qui évolue en national reçoit Bordeaux. Coup d'envoi à 20h55. Voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous.
France Maghreb 2. France Maghreb 2.
France Maghreb 2. Service, info, musique, divertissement.
France Maghreb 2. France Maghreb 2.